Bien, bonsoir. L'espace Mendès France et l'école de l'ADN Nouvelle-Aquitaine sont heureux d'accueillir ce soir dans le cadre d'exposition Alimentation et Santé. T'as l'air dans ton assiette. Christophe Burucoa, qui est professeur des universités, praticien hospitalier, et qui est chef du service, comme c'est indiqué là, de bactériologie au CHU de Poitiers. Et donc il va nous parler ce soir du microbiote. C'est quelque chose qui nous concerne tous, comme il va nous l'expliquer. Je voulais vous signaler aussi qu'il est très actif au sein de l'école de l'ADN, puisqu'il fait partie du conseil d'administration, et qu'il anime un stage qui est destiné aux lycéens de première S, dans le cadre de l'opération lycée recherche et métiers scientifiques. Il anime un des stages qui concerne les bactéries et tout particulièrement la résistance aux bactéries. Et donc, il apprend à nos gentilles têtes blondes que les antibiotiques, eh bien, c'est pas automatique comme le veut le slogan. Voilà, donc je vais lui laisser la parole et puis il va donc nous développer ce thème du microbiote.
Merci Christian, bonsoir à tous. Merci d'être venus tous ce soir. Je suis content de voir pas que des gens que je connais bien. Donc c'est plutôt bien. Donc je vais vous parler du microbiote. Et on va commencer avec un petit poème d'Apollinaire, un poème court, pas un petit poème, qui représente bien l'état d'esprit qu'il y a vis-à-vis de cette problématique du microbiote qui à la fois peut nous effrayer un peu par certains côtés et puis nous semble fascinant par d'autres. Hein. Regardez cette troupe infecte aux mille pattes, aux sans yeux, rotifères, cirons, insectes et microbes plus merveilleux que les sept merveilles du monde et le palais de Rosemonde. Du merveilleux et puis de l'un peu inquiétant, ben c'est un peu ce qu'on va voir ce soir ensemble. Le microbiote humain, c'est un très vaste sujet qui est découvert très récemment. Et en fait, cette découverte, elle tient beaucoup au fait que les connaissances évoluent très vite suivant les progrès technologiques du séquençage à haut débit. On dira un petit mot de cette technologie qui nous a ouvert ce monde du microbiote. L'importance de cet univers bactérien que nous hébergeons, hein, qui est en nous, sur nous, qui nous accompagne dans notre vie, qui nous aide à vivre, on le verra, qui est absolument indispensable à notre vie, est prépondérante. Et on a vu émerger très récemment de nombreux axes de recherche qui questionnent sur les relations entre les perturbations de ce microbiote et puis des maladies qu'on n'expliquait pas encore jusque-là. Et on commence à voir apparaître des traitements avec beaucoup d'espoir. Donc je vous entraînerai dans cet espoir et dans ces connaissances qui évoluent extrêmement vite. Il faut voir notre corps comme une planète habitée. Et comme quand on regarde la Terre, on ne nous voit pas, nous les humains, et pourtant on est partout. Et on verra que pour les bactéries, c'est un peu pareil. On est partout, dans la cordillère des Andes, le delta du Gange, en Laponie, dans tous les territoires qu'on a pu coloniser, qu'on a pu habiter, dans des mines au Brésil, dans des gares en Inde. Eh bien, c'est exactement la même chose avec nos bactéries. Quand on regarde notre corps, quand on se regarde, nous, les êtres humains, on ne voit pas nos bactéries. Eh bien, quand on s'approche, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que chacun de nous est comme une planète et que nous sommes peuplés d'une multitude d'êtres vivants. Notre front est une clairière où gambadent des corynébactéries. Nos cheveux sont une forêt où s'accrochent des staphylocoques. La paroi vaginale des femmes est peuplée, comme vous le voyez, de lactobacillus. Nos intestins sont emplis d'une multitude de bactéries plus étranges, plus intéressantes, plus passionnantes les unes que les autres et qui nous apportent énormément, on le verra tout à l'heure. Donc nous habitons une planète Terre et nous sommes nous-mêmes une planète habitée, une planète microbe, un ensemble de microbiotes. Le pionnier du microbiote, eh bien, c'est ce drapier de Delft, un ami de Dürer qui s'appelait Anthony von Leeuwenhoek et qui, en 1675, invente le premier microscope. Vous le voyez là. C'est une perle, une goutte d'eau, une petite fente dans une platine. C'est tout petit. Hein, vous voyez, il faut vraiment le mettre devant son œil et regarder. Eh bien, ce drapier qui passe ses week-ends à faire de la science, parce que c'est un hobby très à la mode à l'époque, ce drapier qui regarde ses draperies, évidemment, avec des loupes et des choses comme ça, et qui s'y connaît un petit peu en optique, fabrique ça. Et puis, bah, il regarde tout ce qui lui passe sous la main. Il regarde la salive, du sperme, des cheveux. Et puis, quand il met un petit peu de plaque dentaire, il prend un cure-dent, entre dedans, il met ça dans sa goutte d'eau, et il regarde. Et il voit pour la première fois que l'humanité, que quelqu'un voyait des petites choses qui bougent. Il décrit ça comme des animalcules, des animaux microscopiques, mais des animaux minuscules. Ça bouge pas, il y a des bâtonnets, il y a des coccyx, quoi, des ronds. Et c'est la première fois que quelqu'un voit des bactéries, quoi, quelqu'un observe des bactéries, donc 1675. On est en 1675 et il se dit, bah, tiens, c'est intéressant ce que j'ai trouvé. Il se dit, bah, je vais écrire un article scientifique, hein, comme on fait tous. On a envie de communiquer, ben, il met un peu de temps parce qu'il ne parle pas très bien anglais, donc il publie ça en 1683. Et c'est la première preuve écrite qu'on ait de l'observation microscopique de bactéries dans la plaque dentaire de l'homme, et il nous met dans sa conclusion, il y a plus d'animaux qui vivent dans les dépôts qui s'accumulent sur les dents dans la bouche de chacun qu'il n'y a d'êtres humains dans un royaume entier, en particulier chez ceux qui ne se lavent jamais les dents. Donc un petit peu d'hygiène derrière. Et donc c'est un moment historique parce que c'est la première fois qu'on voyait des bactéries, puis des bactéries qui ne sont pas pathogènes, des bactéries qui sont dans notre bouche, qui sont sur nos dents. Ensuite, au XIXe siècle, les frères ennemis de la microbiologie, Pasteur et Koch, un côté français, un côté allemand, avec une rivalité ancestrale, eux, ils ne s'intéressent pas du tout à notre flore. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir des microbiologistes qui s'intéressent à la flore, ils s'intéressent aux pathogènes majeurs qui nous rendent malades et ils font la course à découvrir le plus de bactéries, de virus et à identifier comme ça les agents des différentes maladies. Donc là, vous avez Pasteur et la rage, évidemment, et puis Robert Koch avec, je ne sais pas si c'est la syphilis ou si c'est la tuberculose qui est représentée avec ce serpent. Il faut attendre la fin du XIXe siècle avec les ancêtres du microbiote, on va dire, Théodore Escherich, qui en 1883 décrit la plus célèbre de nos bactéries commensales, de nos bactéries qui sont dans nos intestins, qui s'appelle Escherichia coli, évidemment. Eli Mechnikov, professeur à l'Institut Pasteur, prix Nobel de physiologie, qui décrit le premier probiotique, c'est-à-dire la première bactérie qu'on pourrait donner pour soigner un petit peu les gens, qui s'appelle Lactobacillus casei, qu'il a isolé dans un yaourt, et il appelle ça le bacille bulgare, et il conseille de prendre du bacille bulgare pour avoir un bon transit. Ensuite, fin 19e, début 20e, on est aux États-Unis, à Chicago, à la Northwestern University, et c'est Arthur Kendall qui travaille sur la flore digestive et qui montre l'influence des différents régimes sur la flore digestive. Et puis, il faut rendre aussi hommage à des chercheurs français, Ducluseau, Rebaud, des gens qui travaillaient à l'INRA dans les années 50 en France, et qui sont les pionniers de l'étude de l'écologie microbienne. C'est des gars qui ont passé leur vie à étudier les bactéries de leur caca. Ils ont travaillé toute leur vie sur un échantillon qui est leur propre sel, et essayer de sortir toutes les bactéries qui peuvent être contenues dans ces sels. Avec des choses très intéressantes, ils ont mis au point des techniques de culture de bactéries qui ne supportent pas l'oxygène, qu'on appelle des anaérobies, puisque l'essentiel de nos bactéries qu'on a dans l'intestin sont anaérobies complètes et ne supportent pas la moindre pression partielle d'oxygène. Il faut qu'elles vivent dans un endroit où il n'y a pas du tout d'oxygène. Ils ont inventé des grands tubes de culture qui font 2 mètres de long, dans le fond desquels il n'y a plus du tout d'oxygène, et on peut faire pousser ces bactéries-là. Ils ont inventé des espèces d'enceintes anaérobies, des cloches plastique dans lequel il n'y a pas d'air, il n'y a que de l'azote, du CO2, dans lequel on peut étudier ces bactéries-là. Donc des énormes progrès technologiques qui font que à la fin du XXe siècle, on pensait qu'on avait tellement maîtrisé la culture avec toutes ces techniques bien appropriées qu'on pensait que notre maîtrise de la culture nous permettait de bien appréhender, même dans les articles, on voit les gens disent ben, on sait exactement ce qu'il y a dans les selles, ça a été décrit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, etc. Et puis, sont arrivés une révolution qui est le séquençage à haut débit. Il faut remonter un petit peu avant pour voir d'où ça vient. Il faut remonter au progrès du XXe siècle avec quelques prix Nobel. Watson et Crick qui découvrent l'ADN, la double hélice en 1953, quand le prix Nobel en 1962. Karim Ulis qui invente la PCR, qui est un outil extraordinaire qui va servir pour ces séquençages derrière. Et puis Frédéric Sanger qui a 2 prix Nobel, c'est pas mal, et qui invente le séquençage, c'est-à-dire comment déterminer la séquence d'un d'un gène, A, G, C, T, vous connaissez les bases, et on arrive à lire comme ça la séquence du gène. Et bien, grâce à ces progrès-là, et puis à des essors technologiques qui sont arrivés derrière, et bien on a énormément progressé, on a pu étudier ce microbiote dont je vous parle aujourd'hui. Le séquençage, dans les années 90, quand moi j'ai fait ma thèse d'université, eh bien, on séquençait avec des techniques qui étaient très lourdes. On mettait une semaine ou 10 jours pour séquencer 200 bases. À l'époque, ça nous paraissait extraordinaire. Il fallait couler des gels, c'était compliqué. On utilisait des trucs radioactifs pour déterminer. Vous voyez, là, c'est les A, là, c'est les G, les C, les T. Et puis on lisait AG, CT, TT, AG. Comme ça, on avançait tout doucement. Et on était super contents quand on avait fait 200 bases. C'était tellement bien que moi, pour ma thèse, j'ai fait avec 2 gènes complètement séquencés. Ça paraîtrait complètement ridicule. Sont arrivés dans les années 90, à la fin des années 90, les séquenceurs capillaires, des appareils que vous voyez là, qui permettent de séquencer de façon automatique, sans radioactivité, beaucoup plus rapidement, des gènes. Et ça a fait un énorme progrès. Ça a permis, là vous avez une image, ça se passe dans un hangar à côté de San Francisco. C'est quand on a monté le Human Genome Project, qui était le projet de séquencer pour la première fois un génome humain entier. Eh bien, il a fallu un consortium d'une centaine d'équipes dans le monde, avec une dizaine de hangars comme ça, avec plein de séquenceurs automatiques. Et il a fallu 10 ans, il a fallu 100 millions de dollars pour arriver au premier génome humain dans les années 2000. Et puis, on a vu arriver ce qu'on appelle les New Generation Sequencing, les séquenceurs de nouvelle génération, qui permettent d'aller beaucoup plus vite, d'aller de façon plus performante, plus automatisée, plus miniaturisée et surtout abordable. On a maintenant des appareils qui tiennent sur ce bureau-là, à la place de l'ordinateur, et qui vous séquencent un génome humain en 5 jours pour 5 000 $. Donc vous voyez un progrès énorme et qui continue. Alors on a différents fournisseurs qui se partagent le marché. On nous annonce pour les mois qui viennent, hein, parce que c'est, vous voyez, il y a déjà les prototypes, des séquenceurs nanopores qui sont des espèces de petites clés USB qu'on met sur son ordinateur, dans lequel il y a un petit trou, on met l'ADN là, et puis le séquençage va se faire de façon biologique avec un nanopore qui va déterminer la séquence. Et donc dans quelques mois, on aura des petites clés USB à la place de ces gros séquenceurs qui ont remplacé ces trucs-là, qui ont remplacé ces trucs avec la radioactivité. Donc vous voyez, ça va à toute vitesse et ça permet d'ouvrir des perspectives de recherche et technologiques qui sont extraordinaires. Le nerf de la guerre dans la science, c'est l'argent, comme beaucoup de secteurs. Et le prix du séquençage est en baisse depuis de nombreuses années. La loi de Moore, Moore est un ingénieur de chez Intel, et Moore avait observé que dans l'informatique, chaque année, les ordinateurs doublaient de capacité pour le même prix. C'est quelque chose dont vous avez très conscience quand vous achetez à votre fils un ordinateur. 2 ans après, vous achetez à votre fille un ordinateur, et l'ordinateur de votre fille est 4 fois mieux que celui de son frère, et c'est exactement le même prix, avec des performances beaucoup plus fortes. Donc cette loi de Moore, elle a perduré quelques années, et puis vous voyez que le prix de l'informatique a complètement chuté dans les années 2008-2009, ce qui fait que là, c'est un diagramme qui représente le coût du séquençage d'un génome humain. Les années 2000, c'est la fin du Human Genome Project, 100 millions de dollars, et puis là, vous voyez, on descend, et maintenant, on est à 5 000 $, et encore, on vient de nous annoncer que ça allait être 3 000 $ la semaine prochaine. Donc, des prix qui tombent et qui permettent d'accéder à ces technologies de façon beaucoup plus facile. On n'est pas obligé de monter des consortiums avec une centaine de hangars dans le monde. Et donc, tout le monde peut s'équiper. Et au CHU de Poitiers, on s'équipe puisque la semaine dernière, on a reçu cet appareil. J'ai fait un selfie avec. Donc, vous voyez un appareil qu'on pose sur la paillasse qui coûte encore un peu cher. Hein, c'est 400 000 €. Il faut beaucoup d'informatique derrière qui coûte très cher parce qu'il faut exploiter, analyser, stocker toutes les données qui sortent de cet appareil-là, qui se comptent en gigabits, des choses complètement faramineuses. Et donc, en téraoctets, c'est complètement dément. On ne comprend plus de quoi on parle. Au bout d'un moment, il n'y a plus que les informaticiens qui arrivent à suivre. Donc, on a cette technologie-là qui vient d'arriver à Poitiers. Alors, comment ça marche? On part d'ADN, toujours, puisqu'on veut séquencer de l'ADN. Donc, on extrait l'ADN. Ça peut être, aujourd'hui, on va parler de microbiote, donc on va extraire à partir des selles, par exemple, mais on peut extraire du sang humain pour avoir l'ADN qui est dans les lymphocytes qui sont circulants dans le sang. On extrait l'ADN et on va fragmenter cet ADN. Et le côté très technologique qui a permis l'avancée de ces techniques, c'est qu'il y a deux choses qui viennent. C'est qu'on greffe d'abord des adaptateurs à l'échantillon qu'on veut analyser. C'est-à-dire que je prends un peu de votre sang, je vais fragmenter votre ADN et aux extrémités, je vais mettre ces petits fragments d'ADN que je connais, dont je connais la séquence et qui vont me permettre après d'amplifier spécifiquement. Comme si je mettais une petite étiquette. Vous, c'est rouge, vous, ça va être bleu, vous, vert. Et l'avantage, c'est qu'avec ces petites étiquettes, au lieu d'analyser dans un seul tube un seul échantillon, je peux en mettre 300 avec différentes couleurs. Et à la fin, quand je vais séquencer, ben, je retrouverai chacun. Je dirai, ah oui, ça c'est bleu, c'est à vous. Vous, c'est orange, c'est madame, voilà, etc. Et donc, ça permet de diminuer énormément les coûts puisqu'on peut analyser 300 échantillons d'un coup pour le prix d'une seule manip. Deuxième technologie extraordinaire, c'est ce qu'on appelle l'amplification clonale. C'est-à-dire qu'on va amplifier les fragments d'ADN qu'on a extraits. Et l'avantage, c'est qu'on va le faire localiser cette amplification. C'est-à-dire qu'on va fixer sur une surface le petit brin d'ADN qui nous intéresse et on va lui faire des petits frères, des petits frères, des petits frères. Et ils vont tous rester au même endroit. Ce qui fait qu'après, quand la machine va analyser les séquences, eh bien, elle va se mettre à un endroit, elle va regarder ce qu'il y a et elle va donner la séquence de ce petit truc violet, de ce petit paquet violet. Et puis elle passe à côté, hop, elle fait le marron. Et puis elle passe à côté, elle fait le blanc. Et tout est séparé les uns des autres et tout peut être analysé en parallèle et sans tout mélanger. Donc vous avez une capacité d'analyse qui est extraordinaire avec des espèces de petites puces sur lesquelles on se fixe des millions de petits fragments qui vont être amplifiés, qui vont être séquencés. Et donc on va se retrouver à la fin avec des millions de séquences analysées par l'appareil qui vont sortir dans votre ordinateur. Donc c'est pour ça qu'il faut des énormes ordinateurs derrière. Ces technologies nous ont permis de s'apercevoir que tout ce qu'on croyait au XXe siècle sur la flore digestive, sur nos bactéries dans notre intestin, notre microbiote, eh bien, que c'était complètement faux. Les études basées sur la culture qu'on a fait au XXe siècle, avec tous les progrès qu'on a pu faire pour faire pousser au mieux les bactéries, ne permettaient finalement d'explorer que 20% des bactéries qui nous colonisent. 80% ont passé complètement à côté parce qu'on n'arrivait pas à les cultiver. Par contre, elles sont là, leur ADN est là et on peut les séquencer, on peut les identifier avec la séquence de leur génome. Donc on n'avait que la partie émergée de l'iceberg. 80% des bactéries de notre microbiote ne sont pas cultivables. On n'a pas trouvé de méthode pour les cultiver. Il faudrait peut-être développer des trucs extraordinaires, très compliqués. Ça ne vaut plus le coup maintenant puisque pour 5 000 €, vous faites le microbiote de 300 personnes en une semaine. Ce n'est pas la peine de vous lancer dans des cultures avec des extraits de carottes dans des conditions particulières ou vous pouvez faire tout varier pour essayer de sortir une nouvelle bactérie, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Alors du coup, on change un petit peu de vocabulaire. Avant, on parlait de flore bactérienne. Maintenant, on parle de microbiote. Ça vient du grec mikros, petit, et bios, la vie. Et le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, mais pas que des bactéries, les champignons, les autres micro-organismes, les virus, les parasites, qui sont dans le corps humain et que le corps humain contient en très grand nombre. Et il faut voir notre corps comme différents sites corporels avec des niches écologiques particulières parce que les conditions de ce qui se passe dans notre oreille ne sont pas les mêmes que dans notre narine, que dans notre tube digestif ou que sur le bout de notre pied et que chacune de ces niches va avoir son propre microbiote, c'est-à-dire des consortia microbiens avec des dynamiques communautaires différentes, des interactions étroites avec les tissus qui sont colonisés par ces bactéries-là. Je vais aujourd'hui me polariser un petit peu sur le plus étudié des microbiotes humains, qui est le microbiote intestinal. Alors les microbiotes humains, toutes les niches, je vous en ai mis quelques-unes, pour vous montrer un peu le nombre de bactéries qu'on héberge à chaque endroit de notre corps. Au niveau de la salive, c'est 10 puissance 8 bactéries par millilitre. Hein, 10 puissance 8, ça fait 100 millions de bactéries dans chaque crachat qu'on peut avoir dans notre bouche. Au niveau de la peau, c'est 10 puissance 5 bactéries par centimètre carré. Hein, 100 000 bactéries sur chaque centimètre carré. Vous passez un petit écouvillon, vous le mettez sur une boîte de pétri, on fait ça en TP ou des choses comme ça, on voit pousser une dizaine de bactéries. Mais en fait, il y en a 100 000 quand on va séquencer. Le côlon, c'est l'endroit où il y en a le plus. 10 puissance 11 bactéries par gramme de sel. Et on a tous au moins 1 kilo. Donc vous voyez la quantité que ça fait. Au niveau vaginal, 10 puissance 8 bactéries par millilitre de sécrétion. Et puis quand on regarde dans notre corps, on a des mitochondries et les mitochondries sont sûrement d'anciennes bactéries qui sont rentrés à l'intérieur de cellules pour former les cellules eucaryotes il y a peut-être 2 milliards d'années. Et donc, on est, quand on regarde bien, peuplé de bactéries ou de vestiges de bactéries comme les mitochondries. Donc, vous croyez humain, mais en fait, on est bactérien. On n'est pas humain. Quand on compte bien, on a 10 puissance 13 cellules humaines dans notre corps et on a 10 fois plus de bactéries dans notre corps. Et encore, c'est pas que, le match est encore pire que ça. Les cellules humaines, nous, nos chromosomes, c'est 22 000 gènes. Les bactéries qui nous hébergent, que l'on héberge, c'est 1 000 espèces bactériennes, donc 1 000 sortes de bactéries différentes, 3,3 millions de gènes. Donc des possibilités complètement dingues de coder pour plein de choses que nous, on n'a peut-être pas dans notre patrimoine génétique. Donc quand on regarde le match bactéries-humains, eh ben, elles nous battent à plate couture. Hein, 10 puissance 13, 10 puissance 14 bactéries, 22 000 gènes, 3,3 millions de gènes. Elles sont sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. Nous, ça fait que 200 000 ans, hein, on ne fait pas le poids. Le nombre, ben, c'est complètement dément. Il y a 5, 10 puissance 30 bactéries sur Terre, alors qu'on n'est que 7,35, 19. Et puis, les bactéries ont un énorme avantage sur nous. Elles se multiplient beaucoup plus vite que nous. Nous, il nous faut en moyenne 30 ans pour faire une nouvelle génération. Ben, elles, il leur faut 30 minutes, hein, même si certains d'entre nous essaient d'aller plus vite que 30 ans. On n'y arrivera jamais à 30 minutes. Et elles, toutes les 30 minutes, elles ont une nouvelle génération qui peut proposer de nouvelles solutions, de nouvelles adaptations avec des mutations, avec des changements génétiques qui leur permettent de s'adapter beaucoup mieux que nous à la vie sur Terre. Alors, le microbiote intestinal, c'est notre microbiote le plus important. On a ce qu'on appelle un gradient oro-anal de la bouche à la sortie d'en bas. Dans lequel, au fur et à mesure qu'on avance, le pH va augmenter. Vous savez que le pH est très acide dans l'estomac. Et puis le pH va augmenter, se neutraliser pour arriver jusqu'au côlon. La pression partielle en oxygène va diminuer, c'est-à-dire qu'on a encore de l'oxygène dans l'estomac. Et puis plus on descend, moins il y a d'oxygène. Et quand on est dans le côlon, il n'y a plus du tout d'oxygène. Et c'est pour ça que ces bactéries qui ne supportent pas l'oxygène arrivent très bien à vivre. Et puis la vitesse du transit diminue au fur et à mesure qu'on avance. Donc vous voyez des quantités de bactéries. On part de 10-1, 10-3 bactéries par gramme, et puis on monte à 10-12, 10-14 par gramme sur la sortie. Quand on fait du séquençage à haut débit, on va aller séquencer toutes les bactéries qu'il y a dans les selles, par exemple, et on va avoir des millions de séquences qui vont tomber de l'ordinateur. Ces millions de séquences, il faut les exploiter, voir combien il y a de telles bactéries, combien il y a de telles autres bactéries. C'est assez compliqué à visualiser parce qu'il y a 1 000 espèces différentes. Donc soit vous faites un gros tableau Excel avec 1 000 lignes, ça fait un peu difficile à appréhender. Donc pour mieux visualiser cette complexité, on fait des regroupements. On part des espèces bactériennes qu'on identifie en séquençant et on va regrouper en genre bactérien, puis en famille, en classe, en phylum. On remonte comme ça la taxonomie et on va s'arrêter au phylum parce que là, ça commence à être visible et on crée des images comme ça. Et vous voyez, on a différents phyla qu'on identifie et on voit les proportions de ces différents phyla. Et c'est essentiellement ce que font les gens quand ils étudient le microbiote. Ils ne vont pas dire j'ai 200 000 Escherichia coli, 400 000 bactéroïdettes. On n'arrive pas à comparer. Alors que là, avec ces comparaisons visuelles, on voit un peu ce qui se passe et la prépondérance des différents phylums. Dans notre intestin, il y a 3 phylums prépondérants, je devrais dire phyla. Quand on regarde dans la nature, sur Terre, tout ce qu'on a pu séquencer au fond des océans, dans le ventre des animaux, etc., il y a 50 phyla connus. Toutes les bactéries se partagent dans 50 phyla. Et dans l'intestin, il y en a 3 qui sont prépondérants, qui sont les Firmicutes, avec des noms un peu savants, les Bacteroidetes, Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas. Ces deux-là sont vraiment les gros majoritaires. On rajoute Actinobacteria avec les Bifidobacteria. Vous connaissez tous ces yaourts au Bifidus actif. Eh bien, le bifidus fait partie du phylum Bifidobacteria. Et puis, je vous ai mis le quatrième ici, les protéobactéria, parce que c'est celle qu'on connaît, hein, Escherichia coli, staphylocoque, les salmonelles, quoi, toutes les bactéries qui nous rendent malades ou qu'on connaît depuis très longtemps et qui peuplent et qui nous infectent, eh bien, elles sont là, mais elles viennent vraiment, très, vraiment loin derrière. Les deux groupes qui sont là sont vraiment prépondérants. Et quand on regarde dans notre intestin, 99,9% des bactéries sont complètement anaérobies. Et Escherichia coli, elle est aéro-anaérobie, donc elle n'est pas dans ces 99,9%, elle est dans les 0,1%. Les bactéries qu'on connaît le mieux, elles représentent 0,1% de notre flore, de notre microbiote. C'est vraiment que des bactéries pratiquement qu'on ne connaît pas, dont on ne connaissait pas le nom il y a 10 ans. Alors, quels sont les rôles de l'intestin? Je vous ai mis là l'image de la couverture d'un livre qui est assez sympathique, que je vous encourage à lire, le charme discret de l'intestin. On le trouve partout, il est à la gare, n'importe où, vous le trouvez. Julia Enders, c'était une étudiante en médecine qui a fait gastro-entérologie et qui a écrit un livre de vulgarisation qui est extrêmement drôle à lire et très sympa, avec sa sœur qui a fait les dessins. Et dans ce bouquin-là, vous trouvez pas mal des choses que je vous raconte. Donc sur les rôles de l'intestin, vous savez tous que l'intestin est le site de la digestion. Il faut savoir que c'est aussi un organe de l'immunité très important. 70% de nos cellules immunitaires sont dans l'intestin. C'est extrêmement important. L'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Il y a 100 millions de neurones. Et l'intestin, c'est, quand on l'étale tout, 400 mètres carrés de muqueuse, avec l'ensemble de ce microbiote qui est à l'intérieur, c'est-à-dire, vous vous rappelez, 10 puissance 14 bactéries qui sont là-dedans. Et ces 10 puissance 14 bactéries, elles sont à la surface de 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, c'est le cours central de Roland-Garros doublé. Et donc, notre intestin, si on l'étale et si on met toutes les bactéries dessus comme ça, c'est 400 mètres carrés. Et donc, 400 mètres carrés d'interaction très forte entre ces bactéries qui sont présentes en grand nombre et cette surface énorme qu'est notre intestin. Et donc, on va avoir des interactions très fortes et on va voir les rôles que peut avoir notre microbiote. Donc, les rôles du microbiote intestinal, c'est trois fonctions capitales. La conversion des aliments en nutriments et en énergie. Et on sait que le microbiote serait responsable de 10, 20 ou 30%, ça dépend des publications, de notre apport en énergie, c'est-à-dire de notre capacité de métaboliser les aliments qu'on mange. Si on n'avait pas de microbiote, on serait obligé de manger 30% plus pour avoir la même forme. Ce sont aussi des vitamines que nous, on ne fabrique pas et que les bactéries nous fabriquent pour nous et qui nous sont absolument indispensables. Deuxième fonction capitale, c'est que ces bactéries-là qui sont présentes en très grand nombre et qui ne nous agressent pas, qui nous font vivre, on le verra tout à l'heure, qui sont extrêmement importantes, nous protègent même des bactéries pathogènes. Vous n'avez pas de microbiote ou un microbiote très déséquilibré, vous avalez à la moindre salmonelle, vous faites à tous les coups une gastro-entérite. Alors que si vous avez un bon microbiote, il va falloir en avaler pas mal avant de faire une gastro-entérite à cause d'une salmonelle. Donc vous voyez un effet barrière, toutes ces bactéries qui sont dans notre flore nous protègent des bactéries pathogènes. Et puis quelque chose qui est très important, c'est la maturation du système immunitaire. On en reparlera tout à l'heure. Pour la digestion, j'ai mis la digestion de l'indigestible, c'est-à-dire que les bactéries sont capables de digérer énormément de choses. Nous, les humains, on a 10 puissance 13 cellules, je vous l'ai dit tout à l'heure, 22 000 gènes. Quand on regarde dans ces gènes, il n'y a que un peu moins de 17 gènes qui codent pour des enzymes de digestion. C'est-à-dire que peut-être que moi j'en ai 14, vous 13, vous 17. À nous tous, c'est à peu près 17 gènes qui sont capables de digérer quelque chose. Côté bactéries, 10 puissance 14 bactéries, 1000 espèces bactériennes, 3,3 millions de gènes. Et vous voyez que quand on regarde les séquences, dans toutes ces bactéries qui sont présentes dans notre intestin, il y a 56 000 enzymes qui sont codées par les bactéries. Et donc, du coup, elles rattrapent énormément de choses et elles travaillent plus que nos gènes à nous pour digérer. Vous voyez qu'elles font un maximum de travail pour digérer les amidons, les glycanes, les mucines, les glycoprotéines qu'on ne pourrait pas digérer si on n'avait pas nos bactéries. Et si on n'avait que nos petits gènes humains, on ne mangerait que du lactose, du saccharose et de l'amidon. Et le reste, ça ne nous servirait pas grand-chose. Est-ce qu'on peut vivre sans microbiote? Peut-être. On a pour ça, on n'a jamais essayé d'enlever le microbiote des gens pour voir ce qui allait se passer. C'est un peu compliqué à faire. On a un bon modèle qui est un modèle de souris qu'on appelle axénique. Ce sont des souris qu'on fait naître par césarienne, donc qui sont stériles qui sont des petits fœtus stériles, qu'on sort comme ça dans des conditions complètement stériles et qu'on va faire vivre dans des hôtes où l'air est stérile avec des filtres, l'eau est stérile, les croquettes sont stériles, tout est stérile. Et ces petites souris n'acquièrent jamais de bactéries et sont complètement stériles. Qu'est-ce qui se passe chez ces souris? Elles ont plusieurs problèmes. Elles ont moins de vascularisation, moins d'activité enzymatique digestive. Elles ont des muscles peu épais. Elles ne produisent pas de médiateurs de l'inflammation, des cytokines. Elles ont des immunoglobulines sériques, des anticorps à des niveaux très faibles. Elles n'ont pas d'organes lymphatiques qui permettent de lutter contre les pathogènes. Il n'y a pas beaucoup de lymphocytes, des cellules de l'immunité, dans l'épithélium. Et du coup, elles ont une augmentation de la susceptibilité aux infections. Il y a une couche de mucus qui est très élevée. Et puis, elles ont un besoin calorique qui est de 20 à 30% supérieur à des petites souris normales qui ont un microbiote. Donc, est-ce qu'on peut vivre sans microbiote? Oui, on a réussi à créer des animaux sans microbiote, axéniques, mais tous ne sont pas viables. Certains ne peuvent pas se reproduire. Et puis, on a des modifications importantes dans certains organes et des tissus qui apparaissent avec des cancers qui apparaissent chez ces souris-là. Donc, ça vous montre que on a besoin de notre microbiote pour stimuler notre système immunitaire, pour lutter contre des infections, contre des cancers, etc. Autre axe qui se développe beaucoup en ce moment, on en parle beaucoup, c'est tout ce qui concerne l'axe intestin-cerveau. L'axe intestin-cerveau, c'est un réseau bidimensionnel, et vous savez tous que le cerveau influence les activités motrices. Hein. Quand vous avez un examen, je ne sais pas, le mariage de votre fille et tout ça, eh ben, ça vous entraîne toujours des petites douleurs aux intestins, des petites diarrhées. Eh ben, ça, c'est votre cerveau qui dit à vos intestins, voilà, c'est le stress, et ça agit sur l'intestin. Eh bien, dans l'autre sens, il y a aussi cette communication, l'intestin et son microbiote parlent à notre cerveau avec des médiateurs, des neurotransmetteurs. Et un des principaux neurotransmetteurs, c'est la sérotonine. Et 80% de la sérotonine est sécrétée au niveau de l'intestin. Donc ces neurotransmetteurs remontent par les vaisseaux, etc., par différentes cellules, entraînent différentes réactions et vont parler à notre cerveau. Et on sait maintenant que des désordres de notre microbiote peuvent être, on en reparlera tout à l'heure, à l'origine de pathologies neurologiques. On parle même de pathologies psychiatriques. On se demande, il y a des essais qui sont sortis, si certaines formes d'autisme ne seraient pas dues à des déséquilibres du microbiote avec des montées de signaux qui perturberaient le fonctionnement cérébral. La schizophrénie, pareil, des relations sociales avec des gens qui sont très copains avec tout le monde et puis d'autres qui sont un peu renfrognés dans leur coin. Ben peut-être que certaines équipes ont montré que le microbiote de ces gens-là était carrément différent et on arrive à recréer dans des modèles de souris. Alors des souris avec des comportements sociaux, c'est un peu compliqué, mais il y a des grands neurobiologistes qui vous font des modèles comme ça et qui vous montrent que en transférant le microbiote d'une souris qui n'a pas de comportement social dans une souris qui en a beaucoup, ben on arrive à faire changer d'humeur un petit peu cette souris. Donc on a des choses qui sont qui interpellent beaucoup hein, sur l'influence de ces bactéries-là, même sur nos comportements entre humains. Alors d'où vient notre microbiote ? Eh bien, quand on est dans le ventre de sa maman, c'est complètement stérile. On est comme une petite souris axénique dans son enceinte stérile. Aucun microbe ne va rentrer et la naissance est un chamboulement microbiologique parce que la naissance se fait dans la filière génitale de la maman, proche du tube digestif, de l'anus, et il y a souvent des matières fécales. La naissance, c'est quelque chose de magnifique, mais l'enfant, quand il sort, est souvent recouvert de sécrétions. Et dans toutes ces sécrétions, ce sont des bactéries, ce sont les bactéries de la maman. Et en quelques secondes, cet enfant va être immergé dans le microbiote de sa maman et va être colonisé par ce microbiote très très rapidement. Et puis ensuite, les petits bisous qu'on fera, les éternuements, le contact avec la peau lors de l'allaitement, tout ça va permettre de transférer les bactéries du cercle familial au petit bébé. Alors les choses ne se font pas en 5 minutes. L'établissement du microbiote se fait par paliers successifs. Et il faut 3 ans pour qu'un enfant acquiert un microbiote pratiquement d'adulte. Quand on est dans l'utérus, donc on est stérile, on est et on va être confronté à des bactéries, alors des streptocoques, des entérobactéries, des staphylocoques, des bactéries qu'on trouve dans le tube digestif ou sur la peau de la maman, avec, vous voyez, des concentrations dans l'intestin qui sont assez faibles, 10 puissance 4, 10 puissance 6. Et puis très vite, ces bactéries-là qui s'installent dans l'intestin vont consommer tout l'oxygène qui peut être présent et vont préparer des conditions idéales pour les bactéries anaérobies qui vont venir s'installer. Et donc, on va voir monter les anaérobies strictes avec les bifidos, les lactos qui peuvent être amenés par l'alimentation. Hein, un enfant nourri au sein par sa maman, dans le lait maternel, il y a des lactobacilles. Sur la peau de la maman, il y a des lactobacilles. Et le petit se colonise très, très rapidement et c'est plutôt bon. à 3 mois, le début de l'alimentation, quoi, de la diversification alimentaire avec l'introduction de l'alimentation orale, on voit apparaître d'autres bactéries. Et puis, on se stabilise à peu près vers 2-3 ans avec une flore, un microbiote pratiquement adulte. Donc, vous voyez, il faut quelques temps pour avancer et pour coloniser l'intestin du petit bébé. Au tout début, ce n'est pas du tout la même flore que nous. Alors, il y a plein de facteurs qui influencent ce microbiote. Et si on reprend cet enfant qui vient de naître, il est stérile in utero, et quand il va naître, selon la façon dont il va naître, son microbiote va être différent. Il y a eu de très belles études qui sont sorties comme ça. Si l'enfant naît par voie basse, naturelle, il va avoir des lactobacillus, des prévotella, des sneasia. Par contre, s'il naît par césarienne, on va retrouver des germes cutanés dans son intestin. C'est normal, il n'aura pas rencontré la flore vaginale et digestive de sa maman à la naissance. Et du coup, il perdra peut-être quelques atouts, on le verra. On sait que il y a des hypothèses pour dire que peut-être que ça va influencer sur son immunité, peut-être qu'il y aura plus d'enfants asthmatiques s'il y a plus de césariennes. Pour le moment, ce ne sont que des corrélations statistiques, mais c'est des choses qui interpellent quand même. Ça interpelle quand même beaucoup et ça entraîne des pratiques qui sont un peu bizarres. Des gens qui ont beaucoup lu sur Internet, leur enfant né par césarienne, il y a de plus en plus de femmes maintenant qui prennent une compresse, ensemencent la compresse au niveau vaginal et tartinent leur bébé après la naissance pour être sûr qu'il ait une flore vaginale qu'il recouvre un petit peu artificiellement. Personne n'a évalué si cette pratique était bénéfique ou pas, mais on sait que c'est de plus en plus pratiqué, que ça apparaît dans les maternités, les infirmières, les sages-femmes sont un petit peu effrayées. Mais on voit des mamans qui ont dit « Ah oui, mais sur Internet, j'ai lu qu'il fallait faire ça. » Bon, je ne sais pas. Alors, on sort d'une génération très hygiénique où pendant 40 ans, on a dit « Les bébés, il faut les préserver de tout, il ne faut surtout pas leur donner de microbes. » On s'aperçoit que ce n'est peut-être pas tout à fait bon et qu'il ne faut pas être trop propre avec nos bébés. Il faut pouvoir leur transmettre, pas des choses pathogènes, mais leur transmettre notre flore. Et donc, si on se lave les mains trop, si on met des gants, si on met des désinfectants partout, on aura plus de mal à leur transmettre notre flore qui nous fait du bien. Selon l'allaitement, maternel ou artificiel, on a des différences. L'alimentation solide qui s'introduit fait changer les choses aussi. Et puis après, selon les régimes, quand on est adulte, ça va changer fortement la composition en bactéries qu'on a dans l'intestin. Vous voyez, avec des régimes riches en protéines, en graisses animales, on aura plus de bactéroïdes. Si on a des régimes riches en fibres et en glucides, plus de prévotella, on va basculer d'un côté ou de l'autre de ces répartitions que vous avez vues tout à l'heure avec ces espèces de petits bouquets de différentes familles de bactéries. Et puis, d'autres choses qui influencent énormément, ce sont les traitements antibiotiques. Donc les traitements antibiotiques, évidemment, ils sont là pour tuer des bactéries qui sont pathogènes et ils sont utilisés pour guérir de certaines infections graves. Quand on pense à ces petits enfants qui naissent prématurés et qui se retrouvent en néonate et qui font une infection nosocomiale et qu'il va falloir traiter avec des antibiotiques extrêmement puissants parce qu'il y a des bactéries assez résistantes, ces enfants ont des microbiotes qui sont énormément perturbés. Il suffit d'avoir 2-3 cures successives pendant les premiers mois de sa vie pour avoir un microbiote complètement perturbé par ces traitements antibiotiques. On sait qu'un traitement antibiotique, il vous faut 15 jours, 3 semaines pour vous remettre avec une flore normale, mais si vous enchaînez plusieurs traitements antibiotiques de suite, votre flore commence à souffrir. Alors ce microbiote intestinal, il faut le voir comme un écosystème dynamique dont la composition va pouvoir varier. Elle va varier, on l'a vu, au cours du temps, de bébé, adulte. Et puis quand on vieillit après, notre diversité bactérienne va s'épuiser un petit peu, selon les états physiologiques et selon les régimes alimentaires. Mais la liste des facteurs qui jouent sur la composition du microbiote ne cesse de s'allonger au fur et à mesure des études qui sortent. Du coup, il y a une grande variabilité et ça complique un petit peu la compréhension. Quand on fait des études sur le microbiote, on se dit, je vais me demander si, on parlait de l'autisme tout à l'heure, je vais prendre des enfants autistes, on va prendre leur sel, et puis des enfants pas autistes, et puis on va regarder. Déjà, si on prend que 10 enfants d'un côté et 10 enfants de l'autre, on ne montrera rien, parce qu'il y a une telle diversité d'un enfant à l'autre qu'on ne peut rien mesurer. Donc il faut faire des énormes études avec au minimum 300 de chaque côté pour arriver à commencer à avoir des tendances et avoir des choses intéressantes. Donc il faut vraiment voir cette relation microbiote hôte comme une coévolution. Les bactéries sont dans l'intestin des humains depuis 200 000 ans. Depuis 200 000 ans, ça a évolué, ça a peut-être changé. Peut-être que le microbiote des hommes préhistoriques n'était pas tout à fait le même que le nôtre parce que nos habitudes ont changé, parce que parce que on a pris des antibiotiques tous un jour ou l'autre, parce qu'il y a plein de facteurs comme ça qui interviennent. Et donc, c'est vraiment une coévolution. On n'est plus les mêmes que les hommes préhistoriques, plus tout à fait. Et bien, notre microbiote aussi est un petit peu différent. Alors, une notion qui est importante et qui émerge beaucoup dans les articles qui sortent en ce moment, quand ça se passe mal chez nos microbes, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Quand il y a un déséquilibre de cette flore digestive, de ce microbiote, et bien ça peut se passer mal chez nous. Et on relie de plus en plus, avec plein d'études, les désordres du microbiote, les déséquilibres de ce microbiote, les dysbioses, avec certaines maladies. Et je vous ai mis, mais la liste est beaucoup plus longue que ça. L'obésité, on sait maintenant que les gens obèses n'ont pas le même microbiote que les gens maigres. Ça va même plus loin. On a fait des expériences sur des souris qu'on rend obèses. Quand on prend les crottes de ces souris qu'on a rendues obèses et qu'on le met dans des souris axéniques, vous savez, des souris qui n'ont pas de flore, ben ces souris axéniques vont avoir la flore des souris obèses et vont devenir obèses. Et si vous prenez les selles d'une souris maigre que vous transférez dans une souris obèse, elle va acquérir ce nouveau microbiote et elle va maigrir. Et là, on commence à voir les premiers essais cliniques qui ont été acceptés au niveau éthique, avec des résultats qu'on aura peut-être dans un an ou deux, avec des transferts de microbiote chez des gens obèses qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ont tout essayé. Alors, ils ne sont pas allés jusqu'à la chirurgie pour maigrir, mais il commence à y avoir des études qui vont greffer chez des gens obèses des flores de gens maigres pour voir s'ils ne vont pas maigrir à ce moment-là. Le diabète, là aussi, il y a plein de questions sur le diabète. Est-ce que le diabète, on sait ce que c'est le diabète, c'est les îlots de Langerhans qui sont atteints avec peut-être des anticorps, des choses comme ça, mais peut-être qu'en amont de tout ça, il y a des déséquilibres du microbiote. Pareil pour la dénutrition, il y a des articles récents qui sont sortis, qui sont extrêmement intéressants. Quand on est dans des pays où il y a des fortes dénutritions et qu'on essaie de renourrir des enfants qui sont en dénutrition depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, eh bien on s'est aperçu que le microbiote de ces enfants ne permettait pas à l'alimentation de les faire grossir, de les faire aller mieux. Et qu'ils ont commencé à tenter des transplantations de microbiote chez ces enfants. C'est-à-dire qu'on leur remet une flore normale et après on commence à les nourrir. Et là, ça va aller mieux. Parce que si on les laisse avec leur flore complètement déséquilibrée par la dénutrition, eh bien, on n'arrivera pas à les faire reprendre. D'autres maladies, la maladie de Crohn, ce sont des maladies inflammatoires du tube digestif, qui sont des choses où ça entraîne des diarrhées, c'est très invalidant, c'est très compliqué. Eh bien, là aussi, il y a un rôle du microbiote sur l'inflammation, sur l'immunité, et que là aussi, on va peut-être se lancer dans les transplantations fécales. On ne va pas défiler tout ça, mais l'allergie, l'asthme, on en parlait tout à l'heure, les troubles du spectre autistique, l'anxiété, le stress, l'hyperactivité, les activités sociales, on en parlait tout à l'heure, tout ça semble jouer, quoi, le microbiote semble avoir un rôle. Donc quand on regarde, chaque microbiote intestinal individuel est un écosystème complexe dont les composantes microbiennes sont en équilibre dynamique. Le problème, c'est que tous ces papiers qui sont sortis nous montrent un lien de causalité entre la composition et la structure microbienne du microbiote intestinal et des pathologies. Pour le moment, c'est suggéré, ce n'est pas encore complètement vérifié. Et on a parfois des résultats contradictoires parce que selon les appareils de séquençage qu'on utilise, selon la bioinformatique qu'on met en œuvre pour exploiter ces données, selon les populations qu'on étudie, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Donc il va falloir encore attendre quelques années pour voir s'accumuler les papiers et avoir des tendances qui vont se dégager. Et cette dysbiose qu'on observe, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est le témoin de la maladie? Vous prenez des selles d'enfants autistes, peut-être qu'ils ne mangent pas tout à fait comme les autres et que leur autisme influe sur leur microbiote et que c'est peut-être pas le microbiote qui influe sur l'autisme. Donc c'est la poule ou l'œuf. Hein. On ne sait pas encore qui est en cause au départ de ce cycle. Ce qui est intéressant, c'est que le monde du microbiote s'ouvre à nous parce que les séquenceurs sont de moins en moins chers, parce que tout le monde commence à en acheter, tout le monde commence à lancer des études. Les techniques sont de plus en plus accessibles. Il y a du coup un développement de la recherche clinique avec des essais cliniques dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça qui me semble extrêmement intéressant. Et je suis sûr qu'on va vivre dans les années qui viennent des avancées majeures dans la prise en charge de plusieurs maladies avec ces histoires de transplantation de microbiote fécal. Il est quelle heure là ? Je continue un tout petit peu. Donc je voulais vous parler justement de ces transplantations fécales et pour vous montrer un peu ce que c'est. Ce n'est pas super ragoûtant, mais c'est très très efficace. On peut appeler ça les débuts de la bactériothérapie, c'est-à-dire qu'on transfère des suspensions de sels aux patients. Donc il faut récupérer les sels d'un donneur. Et là, il y a tout plein de discussions actuellement sur savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon donneur. Il faut éviter qu'il soit autiste, schizophrène. La liste s'allonge tous les jours. Il faut éviter qu'il ait une maladie de Crohn. Il faut éviter qu'il ait du diabète, qu'il ait de l'hypertension. Donc, vous voyez, ça restreint pas mal. Et du coup, c'est très compliqué de trouver des donneurs. En plus, il faut leur faire des screenings pour être sûr qu'on ne transfère pas une infection en même temps, hein, qu'ils n'aient pas le sida, qu'ils n'aient pas la syphilis, qu'ils n'aient pas une diarrhée avec un campylobactère, etc. Donc on a un nombre de paramètres monstrueux à passer en screening pour être sûr qu'il n'y a pas de risque de transmettre quelque chose de pathogène. Et puis, on va transférer ça. Alors on va transférer ça, il y a plusieurs écoles, hein, on en est au balbutiement. Donc soit on met une sonde par le haut et on injecte ça dans le duodénum, soit on fait par lavement par l'autre côté, et on arrive à implanter la flore. Alors on a un très bon exemple et une indication qui est, alors non, je ne l'ai pas là, je vais vous en parler comme ça, qu'on utilise et qu'on commence à utiliser fréquemment. Il y a chez les patients qui sont dans des états assez graves et qui vont recevoir des antibiotiques. Les antibiotiques risquent de déséquilibrer complètement leur flore. Et en déséquilibrant leur flore, certaines bactéries vont pouvoir émerger et devenir pathogènes. Et il y en a un qui est connu pour ça, qui s'appelle Clostridium difficile, qu'on a tous plus ou moins dans l'intestin, mais en très petite quantité. On prend des antibiotiques, notre flore est complètement perturbée, et cette bactérie-là va prendre la place, va sécréter des toxines, et va entraîner des diarrhées très très importantes. Ces diarrhées très importantes, c'est grave parce que ça atteint des gens qui ne sont déjà pas très bien, qui sont en réanimation, qui sont en cancérologie. Et ces gens-là font des diarrhées. Alors, on peut traiter ces diarrhées, cette bactérie, avec un autre antibiotique, mais on a des rechutes. Et 30% des gens font des rechutes. Et on a donc des gens qui vont faire des diarrhées régulièrement et être très, très mal et rester en réanimation et vont pouvoir mourir de ça. On s'est aperçu que ces gens-là, leur microbiote était complètement déséquilibré. Il y avait une prédominance de certains groupes et d'autres qui disparaissaient complètement. Et donc, on a eu l'idée, il y a une dizaine d'années, de transférer la flore, de passer les selles de quelqu'un qui va bien à l'intérieur du tube digestif de ces personnes-là. Et il y a eu un essai clinique qui a commencé. Ils se sont dit, on va partir sur 200 patients, on va en faire la moitié avec l'instillation de selles, comme ça, et l'autre moitié avec le traitement classique, avec les antibiotiques. Le protocole a été arrêté au bout de 15 jours, avec 43 patients, parce que tous les patients qui avaient été traités avec ce système-là étaient guéris. Et de l'autre côté, il y avait 40-50% d'échecs. Et ils ont dit que c'est inéquitable pour les gens qui sont tirés au sort dans le bras avec le traitement classique. Et donc, on arrête tout et on arrête le protocole. Et ils ont publié ça dans le New England Journal of Medicine, une grande revue, avec juste 43 patients. Normalement, scientifiquement, 43 patients, on dit oui, d'accord. Et là, c'était significatif. Et il a fallu arrêter le protocole. Et depuis ça, on traite ces infections à Clostridium difficile avec ces transplantations fécales, avec un taux de réussite qui est de l'ordre de 85-90%, et des gens qu'on ressuscite complètement. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans un lit, avec une diarrhée, ils sont en train de se vider, en train de mourir. On leur fait la transplantation fécale, et deux jours après, ils sont chez eux. Donc, quelque chose de complètement miraculeux. Alors, ce n'est pas très ragoûtant. Quand on leur explique ce qu'on va leur faire, ils sont tellement mal qu'ils sont prêts à le faire. Après, si vous êtes un peu avec de l'embonpoint et qu'on va dire que peut-être l'obésité, on va le traiter comme ça, peut-être que vous aurez un peu de réticence à vous faire passer par un tube qui descend dans votre estomac ou dans votre intestin du caca de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant un traitement qu'on utilise et on va avoir apparaître de plein d'autres indications. Je vous parlais des syndromes inflammatoire de l'intestin, des maladies inflammatoires de l'intestin, ces maladies de Crohn. On a les premiers essais cliniques qui commencent. L'obésité, la malnutrition, je vous en parlais tout à l'heure. D'autres choses, les syndromes métaboliques, les encéphalopathies hépatiques, etc. Et puis en neuropsychiatrie, on commence à parler pour la sclérose en plaques, avec certaines scléroses en plaques qui pourraient récupérer avec une transplantation fécale, de l'autisme. Tout ce qui est rejet de greffe, les gens qui sont greffés rénaux, et qui vont rejeter ce greffon, et du coup, la greffe, elle n'aura servi à rien, et bien on s'aperçoit que ces gens-là ont un microbiote qui n'est pas le même, et que peut-être une transplantation fécale chez quelqu'un qui n'aurait pas rejeté une greffe permettrait d'accepter cette greffe. D'autres indications en infectiologie sur des décolonisations quand on est porteur d'une bactérie très résistante, on porte cette bactérie très résistante, ce qui est une véritable épée de Damoclès, qui fait que si vous allez être opéré avec cette bactérie que vous avez dans votre intestin, tant que tout va bien, mais le jour où vous êtes opéré, vous pouvez faire une infection avec ça, et puis on ne pourra pas vous traiter parce que la bactérie, elle résiste à tout. Et bien, comment arriver à débarrasser les gens de cette bactérie-là ? Et bien, la transplantation fécale pourrait être une solution. Donc il y a très nombreux essais cliniques en cours actuellement, et les années qui viennent vont être extrêmement passionnantes pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il va y avoir plein d'espoir dans plein de domaines différents. Et c'est ça qui est assez sympathique et assez emballant. Et c'est pour ça aussi qu'on a acheté cet appareil au CHU de Poitiers pour pouvoir entrer dans cette aventure-là et se lancer là-dedans sur différents projets qu'on est en train de montrer actuellement au CHU. Je vous remercie et j'attends vos questions.
Alors, une première question, elle va venir d'où ? Ah !
Bonsoir. Donc, en fait, comment vous préparez les transferts fécaux ?
La cuisine ?
Oui, parce que finalement, en fait, c'est du transfert de microbiote intestinal.
Ouais.
C'est peut-être un peu péjoratif pour le commun de dire... Transplantation fécale, enfin c'est transplantation intestinale.
Non, mais c'est
après, cette terminologie.
C'est pas très ragoûtant quand on dit transplantation fécale. Donc maintenant, on a décidé de parler de transplantation de microbiote. Oui. Ça fait plus. C'est du marketing, on va dire.
Enfin, marketing, peut-être que les gens y comprennent mieux. Alors, par contre, je reste curieuse de savoir comment vous préparez.
Eh bien, écoutez, c'est vraiment de la cuisine. Hein. On prend les sels, on a une espèce de blender. Et donc, on a acheté un blender au supermarché, mais un blender qui peut se faire autoclaver, qui peut être stérilisé, parce qu'évidemment, on ne va pas utiliser le même d'un patient à l'autre. Il faut touiller le caca, il faut le rendre liquide, on passe sur des filtres pour qu'il y ait des petits débris qui restent, jusqu'à ce qu'on obtienne, on a 200-300 millilitres qu'on va mettre dans des seringues et qu'on va pouvoir passer par les sondes. Alors, avant, il va falloir sélectionner le donneur, donc un interrogatoire serré, exactement comme on le fait pour le don du sang, avec en plus... des problèmes autres qui se greffent dessus, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a plein de maladies qui sont dues à ça, donc il faut interroger un peu les gens dans leur retranchement pour savoir si psychiatriquement ça va, si ils n'ont pas d'obésité, s'ils n'ont pas de diabète, parce qu'on se dit on risque de transmettre, si c'est ça qui influence, on risque de transmettre ça. Donc ça pose des problèmes éthiques compliqués aussi. On rejette beaucoup de donneurs, on en prend pratiquement 1 sur 10 qu'on a screené, et puis après il y a le screening infectieux pour évidemment pas transmettre de maladies avec les selles qui pourraient être infectées. Donc, voilà, c'est. Alors, maintenant, de plus en plus, on va en amont chercher des donneurs jeunes, etc. Alors, les étudiants en médecine sont très, très bien pour ça. Il y a des grandes discussions, savoir si on peut avoir des donneurs, pas professionnels, parce qu'on ne rémunère pas, c'est un don, ou pas, c'est-à-dire quelqu'un dans un laboratoire, un technicien qui est sympa et qui donne ses selles et qu'on pourrait screener facilement, régulièrement sur le plan infectieux, parce que ces screenings de plus d'une cinquantaine de paramètres, ça coûte très, très cher de faire. De dire qu'il n'y a pas de campylobactères, il n'y a pas de salmonelle, et la liste est longue avec les virus et les parasites. Donc là, au moins, on aurait quelqu'un d'un peu captif à qui on peut faire des bilans de temps en temps. C'est pratique. Et puis maintenant, on congèle. Ça nous permet de différer parce qu'au début, il y avait quelqu'un qui n'allait pas bien. Et bien. Il fallait vite trouver un donneur et préparer parce que le malade, il n'allait pas bien. Il fallait se dépêcher un petit peu. Et donc, c'était compliqué. Alors que maintenant, on prend un peu de recul, on essaie d'avoir des donneurs. D'avoir plusieurs selles du même donneur qu'on a vérifiées et de pouvoir stocker au congélateur des suspensions de selles qu'on sort à la demande. Il se part entre différents centres. Là, on parle même de créer une biobanque nationale qui permettrait de dispatcher rapidement dans différents centres selon les besoins. Donc c'est de la cuisine toute bête, mais bon, on fait ça dans une hotte parce que c'est pas très agréable. Mais c'est touiller du caca, le rendre en suspension et puis le mettre dans des seringues. Alors, c'est tellement simple que vous avez même, aux États-Unis, des sites internet qui disent « Faites-vous vous-même votre transfert, il faut acheter ça, des seringues, des tubes, des machins. » Et ils vous disent comment il faut faire. Alors, c'est des transferts pirates, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est très étrange. Bon, c'est très américain comme tendance de faire soi-même son machin. Voilà. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui, dans le fond de leur garage, font de la transplantation fécale sur des indications, je ne sais pas très bien, mais bon, il y a des bouquins, il y a des guides sur Internet, vous trouvez comment vous faire votre propre transplantation fécale.
J'ai d'autres questions. En fait, la définition d'un microbiote idéal. En fait, est-ce qu'il est possible de définir un microbiote type qu'on puisse effectivement reconstituer, enfin, de synthèse, plutôt qu'effectivement d'aller screener des personnes saines ou, voilà. Est-ce qu'il est possible de faire un
Alors, c'est
un
la grande question. Quand on fait des transferts de microbiote, on s'aperçoit très vite qu'on a des bons donneurs et des mauvais donneurs. Mais le bon donneur est peut-être bon pour un malade et pour un autre, il sera mauvais. La complexité est telle qu'on n'a pas encore la réponse pour dire il faut qu'il y ait telle bactérie, telle bactérie, telle bactérie. Alors, il y a des collègues qui cherchent à simplifier, qui se disent eh ben, il y a tant de ça, alors on va faire juste un truc avec 4-5 bactéries et puis on va voir si ça marche. Pour le moment, ça ne marche pas extraordinairement bien. Alors il y en a d'autres qui ont fait des trucs plus, pour passer le côté un peu ragoûtant, là, ils font des petites comprimés avec des sels à l'intérieur, comme ça, ça permet d'avaler des trucs... On n'a pas un jus marron à transférer. Mais il faut manger, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de petites gélules qui contiennent un peu de caca dedans pour pouvoir traiter. Donc, vous voyez, on est au tout début, hein, et puis c'est complètement c'est du bricolage dans des fonds de laboratoire. Je pense que ça va devenir de plus en plus sérieux. Alors, le transfert de microbiote, c'est considéré comme un médicament. Donc il faut qu'il y ait un pharmacien qui valide le prélèvement, qui valide le produit, exactement comme il validerait, je ne sais pas, un don de sang ou des choses comme ça. Oui ?
Je vais vous passer le micro, comme ça on entendra bien.
Donc les indications, là, actuellement, c'est...
Actuellement, c'est uniquement l'infection à Clostridium difficile dont je vous parlais tout à l'heure.
D'accord.
C'est la seule indication qui est reconnue et qui est acceptée. Maintenant, on peut déposer des demandes d'autorisation pour des protocoles pour prouver que ça marche dans telle indication ou dans telle autre indication. Et on attend les résultats de ce protocole. Dès qu'on aura des indications que ça marche à 80%, ben, évidemment, tout le monde ira. Quoi, pour d'autres indications que Clostridium difficile. J'avais une question là.
Oui. C'est peut-être une question qui est un peu en dehors. Je ne comprends pas pourquoi on continue de donner des antibiotiques par voie orale, alors qu'il faudrait peut-être les donner par voie intraveineuse.
Alors, ça n'a pas beaucoup d'influence. Énormément des antibiotiques qu'on donne par voie intraveineuse passent dans l'intestin.
Ah bon ?
Sont resécrétés au niveau de la bile, etc., du foie.
D'accord,
donc,
oui.
Alors, y a un certain qu'on prend par la bouche et qui ne reste que dans l'intestin, mais en général, ils ne servent à rien, ils servent juste à décontaminer et ils n'ont pas d'effet sur une infection pulmonaire ou des choses comme ça. Donc, il y a des antibiotiques qui ne passent pas la paroi intestinale, il y en a d'autres qui passent la paroi intestinale, il y en a d'autres que vous donnez par le sang et qui vont ressortir dans l'intestin. Donc, c'est assez complexe.
Donc, oui.
Donc...
Non, parce que vous parliez que si on prenait beaucoup d'antibiotiques, on détruisait la flore intestinale.
Tout à fait.
Donc, peu importe la voie.
Eh ben oui, par exemple, vous voulez traiter un petit enfant en néonate qui est prématuré, qui fait une infection pulmonaire, vous allez lui donner des antibiotiques et souvent des associations, parce qu'il y a de la résistance, qui vont tout, la plupart passer dans son intestin, même si on traite le poumon. Mmh. Et on n'a pas de possibilité d'aller directement dans le poumon en évitant le tube digestif.
Bon, il y a certaines choses que tu as dû dire en son temps que j'ai oublié, ou des choses qui ne me paraissent pas claires. Au niveau de la technique de séquençage, donc on a des éléments chimiques, une chaîne, c'est non vivant. Dans la thérapeutique dont tu parles là actuellement, c'est la cellule ou c'est l'élément chimique qui intervient ? Est-ce que c'est le génome qui est actif ou est-ce que c'est la cellule, le germe ?
C'est les bactéries vivantes. Alors, il y en a certains qui ont extrait et qui ont essayé de faire de centrifuger et de n'avoir que le milieu dans lequel vivent les bactéries et de transférer ça. Et ils ont eu un petit effet. Donc, il doit y avoir des choses qu'excrètent les bactéries qui permettent aussi de rattraper certaines choses. Peut-être des nutriments qui sont fabriqués par les bactéries, qui favorisent d'autres bactéries qui vont mieux pousser et reprendre leur place. Il y a encore plein de travaux là-dessus. Mais sinon, c'est du vivant qu'on transfère et c'est les bactéries vivantes qui nous apportent le plus. Ce n'est pas leur ADN. L'ADN D'accord. nous sert qu'à les étudier pour dire là, il y a une bactérie qu'on ne connaissait pas, mais qui est là. Et quand on compte les chromosomes de cette bactérie-là, on voit combien il y en a et par rapport aux autres.
D'accord. Et donc, il n'y a pas de biais au niveau du screening dont tu parles, pour voir s'il n'y a pas de germes pathogènes. Parce que,
alors, on ne se sert pas du séquençage pour aller chercher les germes pathogènes. On se sert de la PCR, d'accord, qui est beaucoup plus spécifique et sensible pour aller vraiment chercher ce qui se passe. Et parce que quand on séquence des millions de bactéries, comme on a vu là, on peut passer très bien à côté d'une salmonelle qui est présente là, mais qui va être en une ou deux bactéries présentes. Et comme on en a des millions de séquences à côté, ben on va peut-être la louper. Donc le séquençage n'est pas fait pour faire du diagnostic. Il est fait pour étudier la répartition des grandes classes de bactéries à l'intérieur de l'intestin. Allez, Laurent.
Là, on a abordé la question dans le moment où tout est détraqué et qu'il faut intervenir très, très, très rapidement. Je me posais la question en amont, c'est-à-dire que vous l'avez évoqué un peu, cette flore, elle dépend globalement d'un certain mode de vie, en particulier d'un certain mode alimentaire. Et on en est où dans les réflexions, dans les recherches, dans les travaux, dans les choses qui apparaîtraient sur... tout simplement ce qui permettrait d'éviter de tout casser pour avoir ensuite à tout réparer très cher.
Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il faut avoir un microbiote le plus divers possible. C'est la diversité, mais c'est toujours pareil, hein, c'est la diversité qui est intéressante partout. Donc là, c'est la même chose. Plus il y a de diversité dans notre intestin, mieux on se porte. Et cette diversité, elle est apportée aussi par des contacts alimentaires et par une variabilité alimentaire. Il ne faut pas avoir des régimes avec que des pâtes ou je ne sais pas quoi, c'est dramatique. Donc c'est comme toujours, il faut diversifier l'alimentation pour avoir un microbiote divers. Et puis il faut peut-être aller rencontrer des gens un peu à droite à gauche pour enrichir son microbiote. Et en enrichissant son microbiote, eh ben, on est plus fort pour lutter contre de différentes maladies.
Un peu dans le même ordre, est-ce qu'on a une idée un peu, est-ce qu'il y a des travaux sur... les différents microbiotes qu'on pourrait rencontrer chez des individus vivant vraiment...
Alors oui, il y a eu des études sur des populations d'Indiens d'Amazonie complètement vivant pratiquement au néolithique, qui ont un microbiote qui est différent, mais avec une... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une variabilité inter-individu qui est monstrueuse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette tribu de Yanomami, eh bien, il y en a qui ont un microbiote de telle façon, un autre d'un autre. Globalement, c'est différent de ce qu'on peut avoir, nous, à dans un pays développé, mais ça varie énormément. C'est pour ça que c'est compliqué à analyser, c'est qu'on ne peut pas dire le bon microbiote, les gars, c'est ça. Donc on va vous le mettre à tous et puis ça ira beaucoup mieux. Peut-être que pour vous c'est un autre, chacun est différent parce que génétiquement on est différent et qu'on réagit peut-être différemment de notre microbiote. Peut-être que parce que notre microbiote a évolué dans notre famille depuis des milliers d'années et qu'on en arrive à cette symbiose entre nous et notre microbiote, mais que vous qui habitez à un autre endroit et vous avez un fond génétique différent, ben vous allez peut-être avoir un microbiote un peu adapté à vous, mais pas tout à fait le même.
Juste pour pousser encore plus loin, c'était finalement, vous avez cité Pasteur et ainsi de suite, on est rentré depuis deux bons siècles d'hygiénisme très poussé. Est-ce qu'on est en train un petit peu, légèrement, tout doucement, de remettre en question cet hygiénisme-là?
Complètement. Hein. Avant, je me rappelle, pour l'allaitement, on disait aux femmes de désinfecter pratiquement le téton. Maintenant, on dit surtout ne faites rien. Restez comme ça et ne changez rien. Et pareil, bon, alors on va se laver les mains évidemment parce que ça évite de transmettre certaines bactéries pathogènes, mais il ne faut pas désinfecter tout, il ne faut pas utiliser ces espèces de publicités qui vous disent ça détruit toutes les bactéries partout dans vos WC, dans votre salle de bain, dans votre cuisine, partout. Donc c'est complètement débile. Déjà, ça ne peut pas marcher. Et puis ensuite, on va sélectionner des trucs qui vont proliférer et qui vont nous. C'est exactement pareil que pour les fromages, quand on a dit il faut pasteuriser, ben on a eu des émergences de listeria qui sont arrivées, qui ont envahi tout, et donc c'est exactement le même problème. Il faut rester très soft et pas trop intervenir et puis donner à nos enfants la chance de rencontrer d'autres bactéries, d'autres personnes, etc. Bon, alors c'est peut-être pas très intéressant d'aller rencontrer les bactéries du chien qui a fait dans le bac à sable, mais des cousins, des frères et sœurs, oui, ça vaut le coup, je pense.
Je souhaiterais savoir quel est l'impact des additifs alimentaires sur le microbiote intestinal et si à une époque où les aliments étaient moins transformés qu'aujourd'hui, on pouvait considérer que la population avait globalement un microbiote plus...
Alors c'est difficile parce qu'on n'a pas des cacas congelés d'il y a 200 ans qui nous permettraient de faire une étude comme ça. Donc on l'a à travers des études, comme je le disais tout à l'heure, de populations qui sont restées dans des modes de vie très ancestraux. Mais on n'a que ces extrémités-là avec des gens qui vivent tout nus dans la forêt et qui chassent et qui cueillent. Donc il y en a très peu. Et encore, quand on va regarder bien, ils boivent aussi du Pepsi. Et donc c'est un peu difficile de réaliser une étude complètement pure. Alors après, les additifs alimentaires. Il y a toute une discussion là-dessus avec des intérêts majeurs d'industriels qui vous fabriquent des additifs, qui vous vendent des additifs, qui vous font du marketing là-dessus. Tout à l'heure, on parlait des yaourts avec le bifidus ou des choses comme ça. Là, ce n'est pas un additif, c'est carrément un probiotique, c'est-à-dire une bactérie qu'on a mis dans le yaourt. Tous ces produits-là ne sont pas des médicaments et donc ils n'ont pas apporté de preuves scientifiques de leur efficacité. Donc, on vous bourre le mou comme pour la cosmétique, quoi, on va dire. Donc on ne sait pas très bien si ça marche vraiment ou pas. En plus, quand on regarde bien, de prendre par exemple, je sais pas, de l'ultra-levure qu'on connaît depuis très très longtemps, vous prenez un petit sachet d'ultra-levure, elle va être noyée dans ces millions de bactéries et d'autres micro-organismes, et ce n'est pas possible qu'elle agisse. Ils avaient montré qu'il faudrait en manger 3 kilos d'ultra-levure pour vraiment apporter... C'est qu'une flore de transit, c'est-à-dire que l'ultra-levure, elle ne va pas rester dans votre intestin, elle ne fait que passer. Alors, elle apporte du bienfait quand elle passe, mais il faudrait en manger un sachet toutes les 3 minutes pour que ça fasse vraiment une efficacité. Donc, je ne sais pas si ça marche, mais c'est peut-être... quoi. La transplantation fécale, ça, j'y crois, parce que là, on amène 10 puissance 12 bactéries d'un coup. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Quand vous prenez un petit sachet d'ultra-levure, hein, vous avez 20 000 levures dedans. 20 000 levures par rapport aux millions, aux milliards qu'on a, ça ne fait pas le poids, quoi.
D'accord. Quand je parlais d'additifs alimentaires, je pensais plutôt aux conservateurs, colorants qu'on trouve en fait de plus en plus, qui auraient...
Il y a une étude qui vient de sortir sur les émulsifiants, oui, qui sont extrêmement présents dans pas mal d'aliments transformés et qui montrent que ça change le microbiote parce que certaines bactéries, à cause de ces émulsifiants, prennent le dessus sur d'autres, etc. Quelles sont les conséquences, je ne sais pas, mais de manger des émulsifiants, ça vous change le microbiote, ouais, c'est clair. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'il n'y avait pas de différence, mais c'est extrêmement compliqué de faire des études comme ça, parce que vous mangez bio, peut-être, mais on ne peut pas contrôler. Il faudrait avoir des gens de la même famille, on tire au sort, et vous allez manger que des trucs bio et contrôler complètement. Et on ne peut pas le faire, parce que manger bio, c'est peut-être faire plus de vélo, et c'est peut-être faire, tout un comportement qui va peut-être vous changer votre microbiote aussi. Et là, il faudrait faire des essais sur des gens en captivité pratiquement pour avoir quelque chose de reproductible et de comparable. C'est extrêmement compliqué. Oui, ou alors sur du long terme, mais je ne sais pas si on arrivera à montrer une différence de microbiote. Je vous ai dit, d'une personne à l'autre, déjà, ça diffère énormément. Sur un élément comme ça, alors il faudrait regarder s'ils mangent bio, mais qu'est-ce qu'ils mangent bio ? Est-ce qu'ils mangent, il y en a qui ne mangent pas de viande et puis d'autres qui vont manger... je ne sais pas quoi. Ça va être très compliqué à gérer. Toutes les études alimentaires chez les gens, c'est super compliqué. Déjà, on interroge les gens sur ce qu'ils ont mangé. On sait que 30% ils mentent. Donc, c'est, voilà. Y a toute une approche sociale et psychologique de l'alimentation qui est extrêmement compliquée. Et ensuite, comment ils mangent ? Il y a tellement de variations. Je fais cuire, je ne fais pas cuire. Je cuis beaucoup, pas beaucoup. Je bois en même temps que je mange. Quoi, vous imaginez
Je vais vous donner le micro, parce que la conférence puis les questions sont enregistrées. Vous pouvez les retrouver sur le site.
Quand on fait une analyse alimentaire d'un produit, une pomme, on voit qu'il y a tant de pesticides, et lesquels pesticides. Si on fait ce même genre d'analyse sur une matière fécale, là, pour un probiote, quoi, comme vous l'appelez, est-ce qu'on arrive à retrouver produits phytosanitaires, c'est-à-dire des produits qui ont été traités ?
Le séquençage ne permet pas de retrouver...
analyse autrement.
Ah oui, alors on peut toujours rechercher en parallèle. Oui.
Voilà.
Alors ça, je ne sais pas si ça a été fait, ça.
Ben voilà.
Ouais.
Et c'est la même chose. Deuxièmement, il y a des bactéries qui sont nocives, que des fois, on n'arrive pas à trouver par des analyses. Je nomme... la maladie de Lyme, qu'on ne retrouve pas forcément en France, alors que des fois, on la retrouve en Allemagne, chez certains patients. Je voulais savoir comment on faisait pour savoir si cette personne a la maladie de Lyme ou si elle ne l'a pas, est-ce qu'elle pourrait passer cette maladie au donneur ?
Par les selles ?
Oui.
On ne sait pas.
Puisque quelquefois, la maladie de Lyme, on dit que par la salive ou par d'autres sécrétions, on pourrait la passer. Donc c'est pour ça que c'est
questions. Ce sont des choses théoriques, c'est-à-dire qu'on n'a jamais observé ça pour le moment. On n'a jamais observé quelqu'un qui a transmis, par exemple, par voie sanguine, la maladie de Lyme à un autre, un donneur de sang, par exemple. Il n'y a jamais eu de cas décrit dans la littérature.
Mais peut-être parce qu'on ne sait pas aussi faire les examens peut-être corrects, puisque tests sont très variables.
Oui, tout à fait, mais on se trouve quand même, quand on fait des études sur les gens qui ont la maladie de Lyme, des balades en forêt, des choses comme ça, des rencontres avec, on trouve facilement des rencontres avec des tiques plus probables qu'une transmission... sexuel ou parce que là on peut tout inventer, mais on a jamais rien prouvé du tout, quoi. Donc c'est vrai que on a du mal à diagnostiquer. Alors c'est pas parce qu'on diagnostique mal que toutes les théories sont possibles, quoi. Il faut pas non plus
c'est un problème posé.
Oui, c'est un problème posé qu'on n'arrivera pas à résoudre avec les outils actuels. Mais de là à dire la maladie de Lyme serait une IST. Ouais,
on
n'a jamais vu de transmission au sein de couple de maladie de Lyme.
Est-ce qu'il y a d'autres bactéries qu'on ne connaît pas encore, ou peut-être
Bien sûr. Quand on séquence les 1000 bactéries, mes 1000 bactéries qui sont dans mon intestin ne sont pas les mêmes que vous. Mm-hmm. Donc ça fait des millions de bactéries différentes. Et il y en a plein qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais réussi à faire pousser, qu'on a juste vu qu'il y avait une séquence de quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc ça, oui, ce système de séquençage permet de découvrir des bactéries dans nos intestins, mais n'importe où. Vous prenez un bout de terre de votre jardin, vous séquencez, il y a des milliards de bactéries aussi, dont vous pouvez mettre votre nom sur plusieurs, parce que vous allez être la première à les sortir, quoi.
Juste deux secondes pour vous annoncer qu'il y a une conférence sur la maladie de Lyme la semaine prochaine, s'il y en a qui sont intéressés. Donc je vous retrouverai avec plaisir jeudi prochain à 20h30. Voilà.
Merci Christine.
J'ai aussi quelques petites questions. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du lactose et du gluten, leur intolérance ? Est-ce que ça abîme le microbiote ? Quel est votre avis sur la question ?
Je ne sais pas du tout. le lactose, c'est vis-à-vis de ce qu'il y avait dans les...
Les intolérants au lactose, les intolérants au gluten. Enfin, est-ce que c'est mauvais pour tout le monde ou que pour certains ?
C'est mauvais que pour certains. C'est des enzymes que n'ont pas certains qui font qui ne digèrent pas ça, quoi. C'est pas mauvais pour tout le monde, non.
D'accord.
Pour le gluten, par exemple, on a des bactéries, on a des enzymes propres qui nous permettent, en général, de métaboliser le gluten sans souci. Arrêter le gluten quand vous avez tous les enzymes qu'il faut, je vois pas l'intérêt tellement, quoi.
D'accord.
Après, c'est psychologique, c'est une démarche intellectuelle. Peut-être qu'il peut vous faire du bien, mais je sais pas si dans votre intestin, ça change quelque chose.
Sinon, est-ce qu'il y a une transmission du microbiote du père à l'enfant en dehors des éternuements et tout ? Est-ce que ça, vu qu'on a la moitié des gènes du père, est-ce qu'il y a une transmission du microbiote ?
Tout à fait. Si le papa s'en occupe bien, il a beaucoup de chances de transférer son microbiote aussi. Pas la même transfert que à la naissance, évidemment, mais ensuite, évidemment. Le microbiote c'est le microbiote de la personne qui s'occupe de l'enfant. Si le papa est dans un régime macho comme c'est souvent, il transmettra pas grand chose. S'il s'occupe beaucoup de son enfant, il lui transmettra beaucoup plus, hein. Et puis si c'est une nounou, c'est la nounou qui va transmettre, c'est pas la maman.
Donc si le père a eu par exemple un ulcère, il y a des problèmes au niveau du tube digestif, il y a un risque pour l'enfant.
On parle d'autre chose, qui est une de mes spécialités, qui est la bactérie Helicobacter pylori, qui donne des ulcères à l'estomac. Elle n'est pas dans le microbiote. C'est une bactérie pathogène qui est dans l'estomac, pas dans l'intestin. Et là, oui, on sait que c'est des contacts très rapprochés dans les premières années de vie qui vont transmettre la bactérie. On pense que c'est au cours d'épisodes de gastro-entérite familiale. Alors, on ne sait pas si ça passe par le haut ou par le bas. C'est pas encore bien déterminé, mais c'est pendant ces épisodes de gastro-entérite où tout le monde vomit et tout le monde a la diarrhée que les petits vont se contaminer par les bactéries de leurs parents. Et plus c'est un parent proche, c'est souvent, quand on fait les études génétiques, c'est souvent la maman, parce que classiquement, c'est la maman qui s'occupe des enfants, mais ça peut être le papa, ça peut être la nounou, ça peut être la tata, ça peut être...
Et sinon, quand on a des problèmes digestifs, est-ce qu'on peut faire analyser son microbiote ? Si oui, combien ça coûte ?
Alors,
Parce que vous avez parlé de 5000 euros tout à l'heure, donc je m'interroge.
Donc oui, si vous trouvez 300 personnes, pour 7000 euros, on peut le faire. C'est ce que je vous disais, il faut grouper. Si vous le faites toute seule, ça sera 7000 euros de toute façon. Mais on peut monter jusqu'à 300 analyses. Après, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir en faire.
C'est comme est-ce les que le CHU peut s'arranger pour... Enfin, qu'il y ait peu à peu 300 personnes, enfin, qui ait une liste d'attente en quelque sorte.
Après, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Parce que je vous ai dit, je n'ai pas la formule magique du microbiote qui est géniale. Ouais. On va vous dire, votre microbiote, il est comme ça, vous avez tant de firmicutes, tant de bactéroïdes, de machin. Bon, ben, vous serez contente avec votre truc que vous afficherez dans les toilettes, hein, c'est le meilleur endroit pour parler du microbiote. Mais vous n'en ferez rien, quoi. Alors après, on pourra vous dire, vous avez un microbiote qui a tendance d'obésité. Mais c'est exactement comme les analyses génétiques qui se font maintenant aux États-Unis. Vous envoyez un peu de salive sur un truc et vous l'envoyez par la poste et on vous renvoie votre cartographie génétique. Vous ne pouvez rien en faire, quoi. À part quelques gènes qui sont bien connus maintenant, qui prédisent le cancer du sein, des choses comme ça, qui sont extrêmement graves. Et je ne pense pas que c'est à faire tout seul en envoyant ça par la poste. Ce n'est pas dans des conditions géniales de recevoir une information comme ça. Là, je ne sais pas ce qu'on en fera, mais peut-être que dans quelques années, on fera l'étude du microbiote pour vous dire, attention, vous avez un risque d'obésité, ou on vous fait un transfert, ou vous faites gaffe, pourquoi pas. Mais pour le moment, on n'en est pas là.
Et est-ce que c'est possible d'avoir un transfert
De
microbiote, oui, de matière fécale, en dehors des maladies graves.
Et ben pour le moment, les indications qui sont retenues, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est des maladies graves. Ça va peut-être évoluer, hein, peut-être que dans quelques années, on proposera dans certaines indications, dans plus d'indications que maintenant, des transferts. Ça reste quand même... on ne sait pas quel risque on prend, hein, c'est-à-dire qu'on est au début de ces transferts, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans chez gens qui ont reçu un transfert de microbiote, peut-être qu'il faut être un petit peu précautionneux quand même et pas dire allez à tout le monde, allez, on vous fait un truc et on va vous mettre un beau microbiote qui ferait que vous ne serez pas schizophrène, ni obèse, ni diabétique. Je ne sais pas si on arrivera à ça.
Est-ce qu'il y a un risque de changer la personnalité de la personne?
Oui. Chez les souris, oui. Chez les gens, on n'y est pas encore. Mais chez les souris, vous changez... C'est pas leur personnalité, c'est leur comportement. Hein, c'est des espèces de tests où les souris passent dans des tunnels, dans des petits trous et des trucs comme ça, où vont voir les autres, etc. Et on arrive à changer, à faire que des souris qui ont tendance à aller voir les autres souris pour communiquer, ben elles le font plus parce qu'on a changé le microbiote. Donc si on transpose, on va peut-être à des conduites comme ça en disant ben, ce gars qui est toujours dans son coin, peut-être que si on lui mettait un microbiote, il serait peut-être un peu plus cool et sympathique. On pense à certains collègues. Donc, mais de là à proposer à certains collègues un transfert de microbiote pour que ça se passe mieux, je ne sais pas si on arrive là.
Et le transfert de microbiote, est-ce qu'il tient compte de l'alimentation similaire du donneur et du receveur? Par exemple, si c'est quelqu'un qui mange beaucoup de protéines animales ou au contraire quelqu'un de végétarien ou
alors pour
ce
le
genre
moment,
de choses.
Et vous voyez que le screening se complique de plus en plus et peut-être qu'on arrivera à des trucs comme ça, mais après on ne trouvera plus personne, quoi. Il faudra qu'il y ait des matchs pour tellement de caractères que ça ne va plus être possible, quoi.
Il y avait une question devant.
J'ai juste deux petites questions. Pour préparer les patients qui reçoivent une greffe de microbiote, est-ce qu'on essaye de détruire leur microbiote auparavant?
Tout à fait. On les traite avec des antibiotiques qui restent dans le tube digestif, on en parlait tout à l'heure, et qui leur...
On arrive à tout éliminer.
On fait des lavements. On n'élimine pas tout, mais on permet... à ce qu'on apporte de s'implanter.
D'accord.
Et on le voit très très bien, on a fait des études avant-après, on voit très bien qu'on a récupéré le microbiote du donneur dans les jours qui suivent le transfert.
Et la deuxième et dernière question, est-ce qu'il y a d'autres pistes thérapeutiques à l'étude pour modifier en profondeur un microbiote? Et est-ce qu'il faut donc oublier, là j'écoutais ce que vous disiez sur l'ultra-levure, tous les probiotiques qui sont prescrits, c'est que du confort temporaire en fait?
Alors ça ne marche que le temps qu'on l'a dans l'intestin. Et il faut en prendre pas mal. Après, il y a plein d'équipes qui se sont parties en disant ben, on étudie une microbiote, on voit une différence dans cette maladie inflammatoire, on va aller chercher la bactérie qu'on trouve tout le temps chez les gens qui ont cette maladie et puis pas chez les autres. Ou alors le contraire, qui n'est jamais présente. Et peut-être que là, ça aboutira à des thérapeutiques où on mettra une bactérie dans l'intestin pour éviter cette maladie-là. Mais pour le moment, on n'a pas de réponse vraiment ferme là-dessus.
D'après ce que vous disiez tout à l'heure, le jeune enfant, donc quand il naît, met à peu près 2 ans pour, à l'aide des interactions avec son environnement, maternelle, l'essence basse, l'essence cétarienne, etc., pour se construire un microbiote qui sera, alors le sien, je ne sais pas, vous parlez donc de, qui sera à cet instant-là son microbiote. Est-ce qu'il va le conserver toute sa vie? Alors après, vous disiez effectivement, il y a les confrontations avec des alimentations différentes, avec tout ce qui peut enrichir son microbiote sera très bien. Donc dans le cas des transplantations, par exemple, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, le nouveau microbiote issu de cette transplantation et n'est plus, comment dire, n'est plus celui propre de la personne. Est-ce que le terrain va reprendre le dessus? Est-ce que ce nouveau microbiote va s'installer? Est-ce qu'il faut des piqûres de rappel, etc. Est-ce que quelle est, je dirais, l'interaction entre le, alors il y a les habitudes alimentaires, c'est complexe. Oui. Effectivement, c'est passionnant pour les années à venir au niveau des études. Voilà, ce sont
les greffes. Ça fait seulement 5-6 ans qu'on a commencé. Ouais. Donc on n'a pas de recul là-dessus. Évidemment, il y a des études en cours, mais alors c'est des études de cohorte, c'est extrêmement compliqué parce que il faut que quelqu'un qui a été traité, qui a reçu ça, veuille bien qu'on le retrouve tous les ans pour donner un caca. C'est pas très facile en général. Et donc ces études sont en train de se faire. Sûrement, il y aura beaucoup de perdus de vue, etc. Mais peut-être qu'on aura ce renseignement-là, savoir si... Le problème, c'est que souvent, on n'a pas la flore initiale de la personne quand elle allait bien. On a la flore quand elle est vraiment très mal et qu'il faut lui faire le transfert.
Ou qu'elle a développé des maladies. Voilà. Comme vous parliez tout à l'heure du diabète, de la maladie de Crohn, etc., des choses comme ça. Ouais. Donc, voilà.
Et alors après, la complexité des moyens d'études qu'on a est tellement importante qu'on a des tonnes d'informations. Donc là, on exploite, vous avez vu, de façon grossière, en faisant des espèces de répartitions. Maintenant, il commence à y avoir des programmes informatiques extrêmement complexes qui vont mouliner tout ça, qui sortent d'autres renseignements. Mais c'est sûr qu'on va avancer beaucoup là-dessus. Mais pour le moment, on regarde de façon vraiment comme on regarde un arbre, on dit ça, c'est un châtaignier, et puis voilà. C'est très... Alors qu'on a des multitudes d'informations qui vont être exploitées dans les années qui viennent, mais qui sont colossales, avec la complexité qui est la diversité qu'on peut avoir d'une personne à l'autre et qui fait que ce qu'on va trouver chez quelqu'un, on va se dire « Ah ben ça, j'ai trouvé la solution, c'est ça qui donne la maladie. » Et puis non, on ne va pas le trouver chez un autre, etc. Donc c'est vraiment un cheminement scientifique qui va se faire dans les années qui viennent et qui est extrêmement intéressant à suivre.
Et c'est vrai qu'on, pour rebondir, on le retrouve aussi dans l'alimentation. Il y a certains protocoles alimentaires qui s'occupent du groupe sanguin. Voilà. Et on voit que selon les cultures, etc., il y a des prédominances d'enzymes qui se développent pour mieux digérer, etc., certains types. Donc c'est peut-être pareil pour le microbiote.
Ah ben tout à fait. Ce sont des bactéries qui vivent avec nous. Donc chaque fois, c'est la même chose que quand il y a une infection. C'est une relation entre l'hôte, nous, notre génétique, les bactéries et puis l'environnement. Et tout ça interagit les uns avec les autres pour former ce que l'on est, notre microbiote. Mais ça peut être aussi pour d'autres maladies, avec ces interactions qui sont complexes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu changé de paradigme. Avant, on disait, c'est une bactérie qui donne une maladie, c'était Pasteur. Il y a la tuberculose, je trouve le bacille de la tuberculose, et c'est lui qui donne la maladie. Maintenant, c'est un autre concept, c'est de dire, c'est pas une bactérie qui donne une maladie, c'est un ensemble de déséquilibres de plein de bactéries qui va faire qu'il y a une maladie. Et ça, c'est extrêmement intéressant, mais c'est très complexe.
Mais c'est une étude systémique qui est faramineuse.
Oui, tout à fait, oui.
D'accord. Bon, pour rebondir sur autre chose, c'était par rapport au livre de Julia Anders. Elle parle effectivement des deux... Julia Anders, c'est ça. Ouais, elle parle des deux cerveaux et des interactions justement entre ces deux cerveaux, le cerveau intestinal, on dira, et puis le cerveau gris, la matière grise. Et c'est juste pour dire que ce qu'elle développe là-dedans est très intéressant son livre par rapport aux maladies autistiques, dépression, sur les choses plutôt les maladies psychiatriques, on dira. Voilà.
Tout à fait, oui. Et là, c'est tout un domaine qui s'ouvre avec ça. Ouais. C'est que, il y a plein de choses psychiatriques qui sont avec des désordres du microbiote et que peut-être qu'on peut jouer là-dessus et qu'on peut aider certaines personnes. Après, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on ne trouble pas trop la personnalité des gens en leur changeant? Ouais, c'est extrêmement passionnant, mais ça va poser plein de questions dans l'avenir.
Éthique aussi.
Éthique, bien sûr, oui. Dès qu'on fait de la greffe, c'est...
Oui, c'est considéré comme de la greffe ou une transplantation.
Alors, il y en a qui disent greffe, d'autres qui disent transplantation. Pour le moment, c'est un médicament.
De matière fécale, voilà. Oui.
C'est considéré comme un médicament en France, pas dans d'autres pays européens, ce qui fait que maintenant, il y a des boîtes privées qui sont en train de commercialiser des selles de donneurs payés, des choses comme ça. Quoi. Donc là aussi, plein de problématiques qui se greffent là-dessus.
Il y a dernière question. Il y a des protocoles actuellement en France sur le syndrome autistique, la sclérose en plaques, le diabète. Il y a des lieux géographiquement en France qui font ces protocoles.
Oui, il y a des équipes.
Protocoles, des
il y a des équipes qui se sont lancées là-dedans. Hein, il y a 5 ou 6 équipes qui travaillent sur plusieurs pathologies comme ça, qui se sont lancées. Il y a nos collègues bordelais qui travaillent beaucoup en neurosciences, qui ont fait beaucoup de choses sur les souris, hein, sur ces modèles animaux, qui sont extrêmement intéressants.
Sur l'humain, je voulais dire.
Sur l'humain, ça commence, hein, parce qu'il faut d'abord avoir des preuves de concept dans les modèles animaux pour pouvoir passer ensuite à l'humain, pas faire n'importe quoi tout de suite. Mais oui, ça commence. Alors, les trucs autistes, là aussi, c'est très compliqué, hein. Les classifications des autismes, la reconnaissance du diagnostic, qu'est-ce qu'est un autisme et tout ça. Donc,
diabète de type 2, je pense.
Là, il y a des choses sur le diabète de type 2, tout à fait. Ouais. Avec
sur la résistance à l'insuline, des choses comme ça.
Là, il y a plusieurs protocoles en cours, dont un en France. Oui.
D'accord. À quel endroit ?
À Saint-Louis, à Paris.
D'accord. Merci beaucoup.
Voilà, s'il y a une dernière question ou deux, allez-y. Non, allez-y.
Oui, moi j'étais très intéressée parce que justement j'ai un enfant autiste et puis il y a quelques années j'ai cherché ces transplantations fécales et puis je ne savais pas que ça existait en France. En tout cas pas pour les autistes. Du coup j'ai travaillé uniquement sur l'alimentation avec succès, mais c'était très long. Et je me pose toujours beaucoup de questions. Et là, ce qui m'interpelle, c'est... donc, on n'a que 17 enzymes, grosso modo, de nous. Et après, ce sont les autres enzymes digestives, ce sont les bactéries. Parce qu'effectivement, il y a un problème de dégradation du gluten, de la caséine, des choses comme ça, qui donnent des toxines ensuite. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu constater. Et on peut résoudre ces choses-là, mais aussi en améliorant la flore intestinale. Sauf que c'est très long. Et puis, je pense qu'il y a aussi tout un tas de facteurs. On a parlé des additifs, mais dans ce régime, je ne mets pas d'additifs. C'est tout marché bio, etc. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, comme le chlore ou les métaux lourds. Et je crois, par exemple, que les métaux lourds, ça entrave vraiment le fonctionnement des enzymes digestives.
Alors ça, je ne sais pas du tout.
Vous ne savez pas ?
Non, moi, je ne connais pas tellement ce pan de la littérature. Je ne sais pas si les métaux lourds interagissent avec les enzymes. Il y a des métaux qui interagissent avec des enzymes parce que certains enzymes ont besoin de nickel, de zinc ou de choses comme ça pour fonctionner. Alors peut-être qu'il y a des compétitions avec d'autres, avec certains métaux lourds, mais ça, je ne sais pas du tout.
D'accord. Mais en tout cas, c'est donc bien beaucoup d'enzymes digestives qui viennent des bactéries.
Tout à fait. Vous avez vu que les bactéries codent pour 56 000 enzymes possibles de digestion, alors que nous, on n'a que 17. C'est ridicule.
Une question là-bas. Monsieur, d'accord. Je ne vous avais pas vu.
Merci. Beaucoup de questions ce soir. Du coup, il me reste une question idiote.
C'est la meilleure.
Et que j'espère une réponse intéressante.
Oula, j'ai la pression.
Tout d'abord, je prends un microbiote depuis une semaine. Merci de savoir ce que je prends. Par contre, j'ai pris donc le microbiote en gélule. Il n'y a pas de prise en charge de sécurité sociale. Est-ce que ça s'explique ?
Oui, ça s'explique parce qu'on ne rembourse partout dans le monde, à la sécurité sociale, que les choses qui sont prouvées scientifiquement. D'accord. Donc je ne sais pas si cette indication a été prouvée scientifiquement. Pour le moment, c'est ce que je vous ai dit, c'est uniquement prévu pour la transplantation pour les infections à Clostridium difficile.
Donc beaucoup de corrélations,
mais pour le moment, pas d'indication à certaines choses. Alors après, je sais...
C'était un trouble météorologique.
Non, mais je parle de ce qu'il y a dans vos gélules là, que vous achetez.
J'en sais rien du tout. D'accord. Je ne veux pas savoir.
D'accord. Merci. Parce que je ne savais pas qu'ils ont commercialisé du microbiote en gélule.
Du supraflore. C'est présenté comme un microbiote. Est-ce que c'est
d'accord.
ça
Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'ils mettent 3. C'est le problème de ça. C'est pas quoi. Ce truc-là, c'est considéré comme un supplément alimentaire. Et donc, il n'y a aucun règlement là-dessus. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si c'est contrôlé. Voilà.
D'accord.
Merci. Et vous êtes mieux ?
Oui.
Super.
Merci. Alors, est-ce que c'était la dernière question ? Ah, une ici.
Oui, je voulais savoir, étant donné que le microbiote nous rend beaucoup de services, qu'est-ce que nous, on offre au microbiote en échange ?
Eh bien, c'est une symbiose, hein. Donc lui est bénéficiaire aussi, c'est-à-dire qu'il vit en nous, il se nourrit de ce qu'on lui apporte. Cette collaboration est aussi bénéfique pour lui. Alors après, c'est difficile de se mettre à sa place et de voir ce que ça lui apporte. Mais peut-être que certaines bactéries n'ont survécu que parce qu'on les héberge à l'intérieur de notre tube digestif et que cette population bactérienne ne doit sa survie qu'à cette relation étroite avec nous. Voilà. C'est aussi ce que certains humains apportent. Exactement.
Il y avait une main levée.
J'ai parlé tout à l'heure d'Helicobacter pylori. Est-ce que c'est possible de la détecter ? Est-ce que c'est fiable ? Parce que j'ai entendu un petit peu tout et son contraire, à vrai dire.
Oui, tout à fait. On dispose de pas mal de tests diagnostiques. Hein. Certains qui nécessitent une fibroscopie pour aller faire des biopsies, sur lesquels on va faire de la culture, de la PCR, d'autres avec des tests respiratoires, on vous fait boire quelque chose qui va être détruit par la bactérie et quand vous crachez dans votre air expiré, quelque chose qui a changé, on peut le mesurer comme ça, on peut faire des sérologies. On a tout un panel assez important de diagnostics qui nous permet de vraiment bien faire le diagnostic maintenant.
Et c'est fiable.
Et c'est très fiable, oui.
Parce qu'à vrai dire, mon médecin m'avait dit que ce n'était pas fiable et a refusé que je le fasse.
Eh bien, je veux bien lui faire un cours.
D'accord.
Je peux revenir pour vous parler d'Helicobacter pylori et vous inviterez votre médecin.
Donc il faut peut-être voir un gastro-entérologue directement, je ne sais pas.
Non, je pense que ça dépend des généralistes, comment ils se forment, etc. Mais non, je pense que tout le monde a accès à ces diagnostics-là. Les généralistes sont tout à fait, peuvent prendre en charge ces traitements. Alors, il y a tellement de résistance, on change un peu de sujet là, mais il y a tellement de résistance que maintenant, il faut avoir l'antibiogramme ou la PCR qui nous dit si c'est sensible ou pas pour pouvoir traiter. C'est ce qui marche le mieux. Mais là, je suis en train de tester actuellement un test dans les selles où on détecte la résistance d'Helicobacter qui est dans l'estomac et qui marche très très bien. Donc ça permettra de ne pas faire de fibroscopie, de pouvoir avoir ce diagnostic et l'orientation du traitement qui marche très bien directement avec un prélèvement qui n'est pas invasif.
Donc c'est dans les selles que c'est le plus fiable.
Oui, vous voyez que c'est une espèce d'obsession chez moi.
D'accord. Et concernant le...
Non, c'est pas dans les selles que c'est le plus fiable. Le mieux, c'est la biopsie avec... donc il faut faire une fibroscopie. Donc,
oui, enfin, j'en ai fait 4, donc je ne suis plus à une près. Mais d'accord. Et donc par biopsie, c'est possible.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et concernant le gluten et le lactose, est-ce qu'il y a des tests fiables ?
Ça, je ne sais pas du tout. Pour ça, pour détecter les intolérances ?
Oui.
Alors ça, je ne sais pas. Lactose, je ne pense pas. Gluten, je crois qu'il y a des tests, mais je ne connais pas leur fiabilité, leur sensibilité. Ce n'est pas du tout ma spécialité, là.
D'accord. Donc faut juste essayer de s'en passer un certain temps pour voir. Enfin, personnellement, je ne sais pas s'il y en a qui ont des soucis digestifs. L'absence de lactose en 2 semaines, ça a été radical chez moi.
Oui.
C'est notamment...
Mais ça, beaucoup d'entre nous ont perdu les enzymes qui servaient à dégrader le lactose, parce qu'on les avait quand on était bébé, hein, et on s'en est beaucoup servi tant qu'on était au lait, et puis d'arrêter ce régime lacté, ben, peut-être qu'on a perdu ces enzymes et qu'après on a un peu de difficulté à digérer ce lactose.
Moi notamment, j'avais des énormes ballonnements, et en 2 semaines, je suis passée d'une taille 42, presque 44, à une taille 38 sans perdre 1 gramme, hein, c'était pas un régime, c'est juste en évitant le lactose, enfin, j'en mangeais encore un petit peu, mais beaucoup moins. Donc ça a changé pas mal de choses. Ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais au moins une partie. Sinon, je voulais savoir, quand on, dans la famille, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs critères que vous avez parlé, de l'autisme, un ulcère, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un microbiote défectueux au sein de la famille, notamment ulcère autiste.
Quoi, l'ulcère, là, c'est une maladie infectieuse par une bactérie qui se transmet, qui en... Après, la moitié de la population mondiale a cette bactérie dans l'estomac. Et seulement 10% des gens qui sont infectés par cette bactérie-là vont faire un ulcère. Donc, dans cette salle-là, on est au moins une vingtaine à avoir cette bactérie dans l'estomac qui ne nous fait rien. Et puis, malheureusement, il y en a 10% qui vont faire un ulcère, qui peuvent faire même 1% qui vont faire un cancer de l'estomac. Mais c'est vraiment une toute petite proportion. Par contre, la transmission, elle est familiale. Et c'est pas, alors, on est en train d'étudier le microbiote des gens qui sont infectés par hélico versus les gens qui ne sont pas infectés par hélico. Il y a eu certaines équipes qui ont montré des différences, d'autres pas. Donc là, on tâtonne un petit peu. Mais là, je pense que c'est typiquement une maladie infectieuse. On l'attrape ou on ne l'attrape pas. Et après, une fois qu'on l'a, et ben certains vont, 10% vont faire des trucs plus embêtants que les autres. Et d'autres vont s'apercevoir de rien.
Et donc, entre au sein de la famille, là, entre le cancer du sein, l'ulcère, l'autisme, la dépression et tout, enfin, il y a pas de lien, c'est pas forcément
Alors, il y a des liens familiaux, évidemment, unique. Parce que dans une famille, vous partagez les gènes, vous partagez le microbiote, puisque c'est souvent une transmission maternelle, et vous vous partagez aussi des régimes alimentaires, hein, et vous mangez tous la même chose, et que les recettes que vous ont appris votre maman, votre grand-mère, et tout ça interagit, et peut-être pour faire émerger certaines pathologies plus que d'autres.
D'accord.
J'ai une question peut-être simpliste. Est-ce que dans toutes ces études, il a été démontré un lien entre d'un type de profil, parce qu'avec les millions de bactéries qu'on peut héberger, entre les groupes sanguins et les microbiotes?
Alors non.
Entre des types de profils de microbiotes en corrélation avec des groupes?
Non, il y a eu des études là-dessus qui n'ont pas montré de différence significative. Ouais.
D'accord.
Le groupe sanguin ne change pas le microbiote.
Enfin, c'est pas change, c'est... Non, est-ce qu'il y a des liens entre les deux?
Non.
D'accord. Il n'y a pas eu d'études significatives.
Non.
Merci.
Voilà, donc je pense que c'était la dernière question. Peut-être une petite information avant de remercier Christophe. On est en pleine fête de la science, ça dure encore 3 jours jusqu'à dimanche soir. Il y a pas mal de manifestations de programmées ce week-end. Vous pouvez trouver le programme pour Poitiers et l'ex-région Poitou-Charentes, là-haut à l'accueil, on demande aux hôtesses. Et puis Christophe, ben merci pour cette présentation et l'échange. Voilà. Et bonne soirée. Prenez bien soin de votre microbiote cette nuit. Voilà. Bon, pensez à lui. Merci.